Vous écoutez
RMC. RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi, à la radio, sur RMC, à la télé, RMC Story, canal 23 de la TNT. Nous sommes ensemble pendant 2 heures. Après, ce sera l'intégral tour avec Christophe Cessieux et nous sommes ravis d'être avec vous. Avec tout d'abord, Charles Magnin. Bonjour Charles.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Nous sommes également avec l'économiste de l'émission, Pierre Rondeau. Bonjour Pierre.
Salut Estelle, salut à toutes et à tous.
Le journaliste et libraire, Jean-Philippe Doux, est là aussi. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Vous êtes habillés pareil, tous les deux t-shirts blancs. Ouais, on dirait deux infirmiers.
Il fait 33 à Paris. Actuellement.
Ah oui, oui, non, alors, d'accord.
C'est autorisé à mettre un t-shirt.
Bah, on peut aussi être un peu original. Genre, c'était,
le blanc, autorisé. C'est passe-partout.
Ah bah oui,
on s'est mis d'accord avec Jean-Philippe.
Oui, ça, c'est passe-partout.
On s'est appelé, on s'est dit en blanc.
Oui, voilà, oui.
C'est formidable. Et puis, nous sommes également avec un homme qui a mis une veste. Il fait 33 degrés à Paris.
Mais c'est une surchemise en lin.
Oh bah, excusez-moi, Frédéric.
Excuse-moi.
Pardon.
Faut appeler les choses par leur nom.
Avec un petit liseré bleu, blanc, rouge.
C'était le petit point fashion de Fred Hermel. Dans un instant, on parlera de Marine Le Pen, candidate à la présidentielle malgré sa condamnation pour détournement de fonds publics. Est-ce choquant? Eh bien, vous nous dites tout au 3216 ou sur le WhatsApp d'Estelle Midi.
Le 0612 424 424, que vous soyez électeur du RN ou pas, d'ailleurs, vous réagissez évidemment en direct. On va lire tous vos messages pendant l'émission.
On parlera de la France qui suffoque de nouveau, ça sera à midi et demi. Faut-il réquisitionner les lieux climatisés? Et puis, 13h30, je pense que vous allez être très nombreux à réagir. La Corée du Sud qui réfléchit à rembourser des traitements contre la calvitie. Est-ce qu'il faudrait faire la même chose en France? 3216, vous nous appelez, vous réagissez.
RMC, Estelle Midi.
Midi 7 sur RMC, on démarre Estelle Midi avec le coup de tonnerre du jour. Et c'est l'annonce hier de Marine Le Pen qui sera donc candidate à l'élection présidentielle malgré sa condamnation pour détournement de fonds européens. La chef de file du RN s'est pourvue en cassation. Écoutez ses explications hier soir sur TF1.
Je suis candidate à l'élection présidentielle.
Et vous ne changerez pas d'avis?
Non, je ne changerai pas d'avis, non. Comme j'ai la possibilité de faire un pourvoi en cassation, ce qui n'était pas obligatoirement le cas des autres hypothèses, et que le pourvoi en cassation suspend les effets de l'arrêt, je ferai donc campagne sans bracelet électronique.
Et Marine Le Pen qui a donc démarré sa campagne ce matin sans bracelet électronique, mais tout de même, Charles, avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête.
Oui, elle s'est lancée là tout à il y a quelques minutes dans un premier déplacement de campagne dans la Sarthe à La Flèche en compagnie de Jordan Bardella, presque comme si de rien n'était, même si ce déplacement a été perturbé par des militants écolos et insoumis. Mais Marine Le Pen en réalité fait un pari. Elle se pourvoit en cassation, sa condamnation est donc pour l'instant suspendue. Tout dépend maintenant du moment, du calendrier où la Cour de cassation va se prononcer. Il y a quelques mois, cette Cour avait annoncé qu'elle tenterait de se prononcer autour de la fin de l'année 2026, avant la présidentielle, pour ne pas entraver le scrutin. Et donc à ce moment-là, en décembre 2026 ou janvier 2027, il y aura deux scénarios. Soit la Cour de cassation annule la condamnation de Marine Le Pen, soit la Cour confirme sa condamnation, sa peine d'un an de prison sous bracelet électronique qui devra alors être exécutée. Selon un avocat cité par l'AFP, Marine Le Pen fait un pari, en fait, celui que la justice n'osera pas lui mettre un bracelet électronique à quelques semaines du scrutin. En attendant, elle s'est donc lancée en campagne sous le feu des critiques de ses rivaux depuis hier soir, qui rappellent tous ses déclarations nombreuses sur la probité des élus et le fait qu'un responsable politique condamné ne devrait plus pouvoir se présenter.
Alors, Marine Le Pen, candidate à la présidentielle, est-ce que ça vous choque, Jean-Philippe Doux?
C'est choquant au niveau de la morale, parce qu'en effet, quand on a été pris la main dans le sac, et pour l'instant, en attendant la cassation, elle a été condamnée, donc... lui confier le budget de l'État, lui confier des responsabilités présidentielles.
Rien, hein, pour le
coup, hein. Non, mais je veux dire qu'elle soit en position de lui voir confier l'État. Moi, je trouve ça choquant au niveau de la morale. Choquant aussi de se dire qu'on aura peut-être une présidente qui sera condamnée après les élections. Et enfin, moi, je trouve que, alors bien sûr, la loi le prévoit. Il y a rien d'illégal. Alors, faut peut-être du coup penser à revoir la loi, parce que quelqu'un qui a été condamné et qui est encore dans ce timing judiciaire ne devrait peut-être pas se présenter. En tout cas, elle peut le faire. Mais je trouve que c'est une très très bonne nouvelle pour tous les adversaires du RN, parce que c'est en fait, ils n'ont rien à faire. Enfin, elle se tire une balle dans le pied.
Ça va être une campagne campagne problématique pour elle, c'est sûr.
Voilà, et c'est une très mauvaise nouvelle pour le RN. Je pense qu'il aurait fallu qu'elle laisse Bardella, en tout cas pour le RN, qui aurait eu plus de chance qu'elle, parce que là, je vois pas comment elle peut mener une enfin, on le voit
à mon avis, ils ont dû en débattre ensemble, et pour le coup, si c'est elle qui mène la campagne et pas Jordan Bardella, c'est aussi peut-être parce que Jordan Bardella n'était pas prêt. S'il avait été si prêt que ça, a priori, Marine Le Pen ne se serait pas lancée. Donc c'est peut-être aussi un aveu de faiblesse du RN par rapport à Jordan Bardella. Mais vous dites la morale, Jean-Philippe, mais est-ce que vous, ça vous choque, Fred Hermel, qu'on puisse avoir à un moment, en tout cas, une présidente de la République qui serait sous bracelet, quoi?
Bah, il n'y est pas encore, hein.
Oui, non, j'ai dit qu'il serait, j'ai mis le conditionnel.
C'est le sketch de Bigard, si la chauve-souris, quoi. Donc, voilà. Moi, ce que j'ai aimé dans l'arrêt de la cour d'appel, que j'ai lu, c'est on voulait garder la liberté de choix de l'électeur. Je pense que la grande nouvelle, c'est ça. C'est que la justice dit c'est le peuple qui va choisir. Le juge suprême, la justice, elle est
normalement rendue... la justice, elle se prononce pas là-dessus. Hein. Elle doit pas avoir la présidentielle en ligne de mire. La justice, elle est indépendante. Oui. Je suis désolée.
C'est l'arrêt de la cour d'appel hier. Rendre la liberté à l'électeur, ne pas confisquer l'élection présidentielle. Ça, c'est noir sur blanc. Hein. Enfin, je veux dire, c'est la justice est rendue au nom du peuple français. Et le juge suprême dans une démocratie, c'est le peuple. Donc, c'est au peuple de choisir.
Je suis désolée. La justice.
Donc là, la justice, la cour d'arrêt dit qu'elle peut se présenter. Concrètement, elle ne dit pas ça, mais dans sa décision, elle laisse à Marine Le Pen la possibilité de se présenter.
En fait, elle a été considérée inéligible pendant 15 mois.
Voilà, et c'est fini.
Elle a déjà purgé.
Donc c'est fini.
Mais elle a un casier judiciaire. Vous vous rendez compte qu'il y a des professions aujourd'hui en France auxquelles vous ne pouvez pas accéder si vous avez un casier. Mais en revanche, je peux être président de la République avec un casier. Je sais pas, il y a un truc qui va pas.
Mais là, on ne sait pas ce que va dire la cour d'appel. On ne sait même pas si la cour d'appel.
La cour de cassation.
Si la cour d'appel.
Il y a quand même deux condamnations.
Oui, mais la
première instance, c'est pour
appel. Oui. Il y a une cassation, ils sont suspendus. Donc tu disais, elle est condamnée. Non, elle est présumée innocente puisqu'il y a une nouvelle juridiction. C'est la loi.
Peut-être qu'il faut changer la loi. En tout cas,
oui, mais dans ce cas-là,
pour la prochaine fois. Mais moi, ça me paraît. Excusez-moi, ça me paraît fou de pouvoir se présenter aujourd'hui à l'élection présidentielle alors que tu n'as pas un casier judiciaire.
C'est au peuple de décider.
J'espère que c'est pas le peuple qui décide de ton casier judiciaire.
Non, mais c'est le peuple qui décide s'il est dit ou pas une.
Oui, mais là, on lui dit
une personne sous le coup de deux condamnations.
Au niveau de la.
Je me permets de redire la même chose. Le juge suprême, c'est le peuple. Moi, ça ne me gêne pas qu'en démocratie, ce soit le peuple qui décide si Marine Le Pen.
Si t'as un casier judiciaire, dans ces cas-là, avoir un casier judiciaire ne signifie plus rien et tu peux faire toutes les professions.
Et les enseignants qui peuvent pas enseigner.
Est-ce que la loi interdit à quelqu'un de se présenter?
Non, mais peut-être qu'il faut changer la loi.
Un casier judiciaire, la réponse est non.
Mais peut-être faut-il changer légal. La loi, pas maintenant,
on a un débat juridique sur la loi, faut-il la changer ou non. Là, moi, je vais parler en matière de probité. On a un parti politique qui met en avant depuis très longtemps la nécessité de la probité.
Tout à fait.
Mettre en avant un discours anti-élite en disant qu'il faut mettre en avant la probité politique, il faut pouvoir se présenter avec un casier judiciaire vierge, ce qui a été dit notamment par Jordan Bardella, que même Marine Le Pen avait annoncé qu'elle ne ferait pas campagne et qu'elle ne serait pas candidate si elle devait porter un bracelet électronique.
Elle n'en porte pas là.
Elle n'en porte pas. Mais le problème, c'est que si en décembre prochain, la Cour de cassation donne une troisième fois raison aux conclusions d'un procès avec des conclusions qui ont été étayées, qui ont été argumentées deux fois de suite, on a justifié pourquoi Marine Le Pen a été condamnée. Donc qu'on me dise aujourd'hui c'est vrai présomption d'innocence parce qu'elle est en cour de cassation.
Ce qui est vrai.
Oui, mais là très concrètement tel qu'on observe les choses, elle a été condamnée deux fois et deux fois de manière étayée et argumentée. C'est pas l'un ou l'autre, c'est concrètement il y a eu deux condamnations. Nous sommes d'accord, elle peut aller en cour de cassation.
Elle y va.
Et la condamnation est suspendue, soit. Mais on a un parti politique qui, depuis des années, nous dit probité, nous dit excellence, interdit à ce qu'un élu un candidat puisse se présenter s'il a un casier judiciaire. On a même Marine Le Pen qui, la semaine dernière, a dit « Je ne ferai pas campagne si je devais porter un bracelet électronique. » Quid de janvier prochain.
Elle n'en porte pas.
Oui, mais quid de janvier prochain.
Est-ce qu'ils peuvent encore switcher, d'ailleurs?
Bah oui, bien sûr, c'est pour ça qu'ils font la campagne à deux.
C'est un ticket gagnant, mais justement, c'est un vrai pari. Et moi, au-delà du pari, moi, je mets à la place d'un électeur du RN qui, tel qu'on l'entend, va critiquer tous les vieux partis politiques, PS, UMP, Républicains, tous ces partis politiques avec des élus qui ont été condamnés, qui sont maintenus et qui ont continué à gouverner la France malgré des condamnations, en disant « nous, on ne le fera jamais ». Et eux, deux fois de suite, première instance, et appel, deux fois de suite, ils ont été condamnés.
Bah, ils pourront voter ou pas, c'est simple, c'est facile. Ouais, ils ont le droit de vote.
Moi, je serais content.
Mais je veux dire, t'inquiète pas pour
encore une fois,
t'inquiète
là,
pas pour l'électeur du RN. Si ça gêne ça, moralement, il ne votera pas pour Marine Le Pen.
Donc tout va bien. Au niveau du discours, c'est entendre quelqu'un qui nous dit il faut l'excellence et derrière constate que deux fois de façon étayée se maintient candidat.
On verra les premiers sondages dans une semaine. Déjà, on verra si Marine Le Pen perd des points dans les sondages. Moi, je suis pas sûr du tout.
Je pense qu'elle ment. En tout cas, ça va alimenter le désamour des Français pour la politique, parce que c'est pas possible de voir ça.
Alors justement, il y a de très nombreux auditeurs qui nous appellent au 32-16. On a Jérôme de Perpignan, qui est maître d'hôtel et qui voulait réagir. Bonjour Jérôme.
Et bonjour à tout le plateau et bonjour à Estelle. Tout d'abord, un petit mot.
Allez-y.
Un fort soutien, un fort respect à nos sapeurs-pompiers qui luttent autour de Perpignan. Mmh. Et je sais que le plateau d'RMC et vous, Estelle Midi, chaque fois, vous vous exprimez pour leur donner un petit soutien. Donc, je les soutiens à tous, encore, qui luttent pour protéger nos habitations.
Exactement, parce que vous êtes des Pyrénées-Orientales, bien sûr, et qui sont en proie de violence
dans son lit. Dans les cabines, donc, ils sont fous d'Essel.
Jérôme, alors, est-ce que vous, ça vous choque de voir Marine Le Pen qui puisse être candidate à l'élection présidentielle?
Alors, évidemment, c'est choquant. Parce qu'elle est condamnée, elle brigue le poste le plus haut, celui de la présidente de la République. Mais à la fois, il y a des droits de la défense, il y a des recours, il y a des procédures. Et elle surfe sur un manque de confiance que portent les Français sur les décisions de justice. Alors c'est un peu le retour de boomerang. Et elle a eu raison de se représenter en sachant le peu de confiance. Et on l'écoute très souvent sur vos plateaux et dans les débats. Que portent les Français sur les décisions de justice?
Oui, c'est vrai qu'en ce moment, l'institution judiciaire est un peu égratignée.
Qu'est-ce
qu'ils
disent les Français ce matin? Vous voyez, moi j'étais à Perpignan par rapport au maire Louis Alliot, qui a été condamné, qui peut continuer ses mandats, et son action politique. Il n'y en a aucun qui a eu un propos négatif. La phrase choquante, oui, il est condamné, mais il va pouvoir continuer ses actions.
Alors c'est un peu différent peut-être quand on est maire, parce qu'on ne préside pas au destin de tous les Français. Mais Jérôme, est-ce que par exemple, si éventuellement vous étiez électeur de Marine Le Pen, est-ce que ça pourrait changer votre vote ou pas du tout?
Mais moi ça me changerait si elle va dans cette campagne dévoiler un peu un phénix qui combat des décisions de justice et qui ne veut pas respecter cette décision.
D'accord.
Ça me choquerait. C'est-à-dire qu'il y aurait, si vous voulez, c'est une petite nuance que je pense que vous l'exprimez sur les plateaux. Il y a une petite nuance, un petit côté attention, si Marine Le Pen lève le bouclier de voilà, moi je suis là pour combattre cette décision de justice. Il y a un côté un peu chez les Français, enfin pour moi, si j'avais à choisir, qui me dérange un peu.
D'accord.
Je voudrais un petit peu un mea culpa, mais je pense qu'on l'aura pas, n'est-ce pas? Mais un petit mea culpa serait quand même assez apprécié durant la campagne pour qu'elle puisse avoir comme à l'écoute certains qui pourraient dire bon ben voilà, elle a été condamnée, donc du coup elle combat, c'est les droits de la défense.
Ok.
Et puis elle revient pas dessus. Mais attention, hein, en face d'elle, il y a personne. Il y a personne.
Il y a personne, vous exagérez. Édouard Philippe est plutôt pas trop mal dans les sondages. On sait que Mélenchon est un diesel. Et puis après, il y en a d'autres qui peuvent arriver. François Hollande est très bien placé dans les sondages, notamment. Et puis, il peut y avoir d'autres candidats.
On va rappeler, parce que depuis hier soir, on a l'impression qu'on vote dimanche prochain. C'est dans un an.
Bien dit.
Là, il y a une accélération parce que ça y est, elle s'est déclarée candidate. Elle fait des déplacements de campagne, les autres lui répondent, etc. Là, on se croirait à 10 jours du scrutin.
Ouais, mais on a l'impression
qu'on est
parti,
encore très loin.
Là,
on n'a même pas encore le casting.
Oui.
Même au RN.
Ah bah, on a quand même déjà 50 personnes. La salle est quand même déjà remplie.
Et a priori, on espère que ça écrème un peu.
Il y a quand même du chemin avant d'avoir 50 personnes.
Et d'ailleurs, Benjamin Lucas s'est désisté. Ça faisait déjà une place.
Ça m'a
empêché de dormir. Bon, merci beaucoup, Jérôme, en tout cas, d'avoir été avec nous. Et effectivement, on a évidemment une pensée pour tous les pompiers qui se battent contre les incendies dans les Pyrénées-Orientales. Nous sommes avec notre invité sur ce débat, Arnaud Benedetti, qui n'a pas dû chômer hier soir. Arnaud, professeur associé à la Sorbonne, directeur de la Nouvelle Revue Politique. Bonjour, Arnaud.
Bonjour à vous.
Bonjour. Et merci d'être avec nous. Sacré coup de tonnerre quand même, Arnaud Benedetti. Si on avait dû parier en fin d'après-midi, on n'aurait jamais parié sur une candidature de Marine Le Pen.
Ben, en fin d'après-midi, après le délibéré de la Cour d'appel, la question se posait. Si si elle serait candidate ou pas. La surprise vient vraisemblablement surtout du pourvoi en cassation, parce que on imaginait qu'elle allait accepter la condamnation, trouver un moyen d'aménager sa peine de port d'un bracelet électronique, parce qu'elle pouvait bénéficier de remises de peine déjà automatiques, puisque c'est une peine inférieure à, enfin en tout cas une peine d'un an qui permet des remises automatiques assez, assez rapides. Et on se posait la question de savoir si, finalement, je veux dire, elle allait intégrer cette condamnation et l'accepter. Elle l'accepte pas. Elle se pourvoit en cassation. Dans un état de droit, il faut rappeler que la logique pénale, c'est trois étages de juridiction. Elle est présumée innocente. D'ailleurs, la procureure générale de la Cour d'appel, ce matin, l'a rappelé. Le vrai sujet qui se pose aujourd'hui, si vous voulez, dans cette affaire, c'est... Elle fait un pari qui est un pari risqué, mais qui peut se tenir tactiquement parlant, dans la mesure où elle fait le pari que, de toute façon, la Cour de cassation ne rendra pas sa décision avant le second tour de l'élection présidentielle, même si c'est vrai.
Ça fait désordre quand même, Arnaud Benedetti, pardon.
Oui, mais... Le problème, c'est la procédure après.
Oui, dans cette affaire, il faut que ça change.
La diligence qu'avait manifestée, si vous voulez, la Cour de cassation en première instance, lorsqu'elle avait été interrogée suite à la condamnation, à la première condamnation de Marine Le Pen, était de mettre en avant le fait que l'exécution provisoire, qui n'a pas été requise, il faut le rappeler, en seconde instance, nécessitait en effet une procédure accélérée. Là, l'exécution provisoire a sauté. À partir du moment où l'exécution provisoire saute, il est évident que le degré d'urgence n'est plus tout à fait le même pour la Cour de cassation. Donc, vraisemblablement, on peut imaginer que les défenseurs de Marine Le Pen ont vraisemblablement proposé à celle-ci cette stratégie et qu'elle l'a actée et qu'elle a, en effet, hier, d'une certaine manière, tenu sa parole. Parce que qu'est-ce qu'elle dit ? Elle disait « Je ne serai pas candidate si
j'ai un bracelet.
Je dois être astreint au port d'un...
d'un bracelet.
Pour le moment, elle n'en a pas. La question est de savoir quand est-ce que la Cour de cassation rendra sa décision, sachant que déjà, les avocats ont 4 mois pour déposer, les avocats de la défense ont 4 mois pour déposer la conclusion. Donc ça nous amène déjà quasiment à la fin de l'année.
Bah écoutez, merci beaucoup pour toutes ces explications, Arnaud Benedetti. Merci d'avoir été avec nous. Et on termine avec Hicham de Cergy, dans le Val-d'Oise. Il est infirmier libéral. Bonjour Hicham.
Bonjour l'équipe, bonjour Estelle, bonjour Fred, bonjour la totale.
Ok. Vous allez bien. Ben oui, très bien, Hicham. Est-ce que vous, ça vous choque de voir Marine Le Pen candidate à la présidentielle? Est-ce que Jordan Bardella n'aurait pas été une meilleure solution pour le RN?
Alors, petit préambule, 10 petites secondes. Jérôme, l'auditeur d'avant parlait des pompiers. Je salue aussi les pompiers. Je salue aussi les infirmiers et les infirmières qui sont dans les hôpitaux à 34 degrés. La canicule, on n'en parle plus.
Maintenant, on en parle dans 3 minutes, là, vous voyez.
Vous me rappelez dans 3 minutes, alors.
Ok.
Du coup, Marine Le Pen. Moi, je trouve que c'est assez cocasse, quand même, et qu'on rappelle pas assez pourquoi elle est condamnée, cette dame. Détournement d'argent public, 4 millions. On nous dit qu'il n'y a pas d'enregistrement personnel, mais à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des débiles.
Mais ça, c'est au-delà la justice, Hicham. Voilà, la justice, elle a rendu son verdict.
Je préfère quand même le dire. Et donc, la justice a rendu son verdict. La justice dit que cette dame, elle est coupable par 2 fois. Première instance et en appel. Elle se pourvoit en cassation. Pourquoi ? Pour gagner du temps. Maintenant, politiquement parlant, c'est bien joué. Elle a bassé carte, Marine Le Pen. Parce qu'elle sait que Jordan, que s'il était devant Mélenchon, Édouard Philippe, du haut de ses 30 ans, sans formation, sans diplôme, sans emploi, il se serait fait castagner, que vous le vouliez ou non. Donc là, elle se lance dans cette bataille. Pourquoi ? Parce qu'elle sait que son RN, il a pas de chance avec Bardella. Donc là, le problème qui va se poser maintenant, c'est que peu importe que ça soit Marine ou Jordan, Jordan aurait essuyé les invectives concernant son curriculum vitae. Et elle, qu'est-ce qu'elle va essuyer ? Elle va essuyer le fait qu'elle est poursuivie en justice et qu'elle a une épée Damoclès avec la cassation. Donc du coup, l'un ou l'autre, je pense que politiquement parlant, ça aurait été compliqué. Maintenant, moi, ce qui me fait qui m'embête un peu pour être poli, c'est qu'on va encore passer une campagne présidentielle à ne pas me parler des programmes. On va parler du pédigré de la justice et des casiers des uns et des autres. En 2017, c'était Fillon, on nous a volé cette campagne sur les programmes. En 2022, on nous l'a volé avec l'Ukraine. Il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de programme contre programme. Et là, rebelote. À un an de l'élection présidentielle, hier, Maxime Souitec, qui fait une excellente émission spéciale sur BFM, BFM, et pendant 3 heures, on parle de quoi? De cassation, d'appel, de bracelet électronique. Les programmes vont passer encore à l'as. Et c'est ça qui est pénible, et les Français en ont marre. Et
alors, j'aime bien ce que vous dites, Hicham, et vous avez raison. Et c'est vrai qu'on a été frustrés en 2022 de ne pas avoir plus de débats. Emmanuel Macron, qui n'a pas participé d'ailleurs au débat avant la présidentielle. Là, aujourd'hui, toutes les chaînes info, nous, évidemment, on parle de l'actu. Et l'actu, c'est effectivement ce qui s'est passé hier avec Marine Le Pen. Après, dans 3 mois, je vous assure, Hicham, après les vacances, tout le monde va parler de la retraite. À quel âge l'âge de la retraite? Est-ce que capitalisation, répartition, etc. Ça va être l'enjeu. On parlera moins du bracelet, mais après, c'est pas de la faute des électeurs, c'est de la faute de Marine Le Pen, d'être candidate à la présidentielle et de faire que, évidemment, elle sera en proie aux invectives comme ce matin, aux moqueries, aux insultes peut-être. Voilà, c'est son choix à elle de faire la présidentielle, et évidemment que pour elle, la présidentielle, elle va être plus difficile, c'est sûr, que si elle avait été totalement blanchie. En tout cas, merci beaucoup, Hicham, d'avoir été avec nous. Et dans 5 minutes, on parle de canicule, Hicham, je vous le promets. Merci.
Mais en attendant, cette décision de Marine Le Pen, ça vous divise, sur le WhatsApp de l'émission au 06 12 424 424. Raoul qui nous dit, moi, au contraire, ça me motive encore plus à voter RN. J'ai l'impression que la justice s'acharne contre elle, alors que beaucoup d'autres partis ont eu aussi le même genre d'affaires, mais qu'on est beaucoup plus sévère avec Marine Le Pen. C'est en tout cas le sentiment de Raoul. Alexis, lui, nous dit, j'estime que Marine Le Pen aurait dû céder sa place parce que ça va polluer sa campagne, quoi qu'il arrive, ses opposants, les journalistes, tout le monde ne veut lui parler que de cette condamnation pendant des mois, au lieu de parler de son programme et de la politique. Alors Marine Le Pen qui maintient sa candidature, qui décide d'être candidate, est-ce que ça vous choque ou pas? Vous avez répondu non à 69%.
C'est quand même une large majorité. Dans un instant, on va parler de la proposition du sénateur de Paris, Yann Brossat, qui souhaiterait réquisitionner les lieux climatisés en période de canicule. Tiens, 71 départements en vigilance orange actuellement. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? On en débat avec vous dans un instant au 32-16.
RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est midi 31, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, en compagnie de Charles Magnin, de Pierre Rondeau, de Jean-Philippe Doux et de Fred Hermel. Et on va tout de suite poursuivre Estelle Midi avec la proposition de loi du jour, et c'est celle que le sénateur de Paris, Yann Brossat, va déposer aujourd'hui pour réquisitionner les lieux climatisés en cas de canicule. 71 départements sont en vigilance canicule orange actuellement en France, et l'idée de Yann Brossat, eh bien, ce serait de permettre aux plus précaires d'accéder à des endroits frais lorsque les températures s'élèvent, Charles.
Oui, il appelle ça une forme, je cite, de réquisition climatique. En cas de vigilance rouge, par exemple, il voudrait que l'État, les collectivités, les mairies puissent réquisitionner certains lieux frais. Il cite des exemples qui ne sont évidemment pas choisis au hasard, notamment les espaces commerciaux comme les étages du BHV au cœur de Paris, qui pour certains sont vides depuis des mois et qui sont climatisés. Il parle aussi des jardins de Matignon ou encore la piscine de l'établissement scolaire privé Stanislas qui dispose d'une piscine. Il cite aussi des centres de congrès ou encore certains immeubles de bureaux qui ne sont pas utilisés en permanence et qui sont climatisés. L'idée est de donner accès aux plus fragiles à des espaces rafraîchis plusieurs heures par jour. Et il voudrait que les préfets listent l'ensemble des lieux qui pourraient être potentiellement réquisitionnés en cas de forte chaleur. Et quand on lui demande qui paierait le coût de la clim dans tous ces espaces, il répond les pouvoirs publics.
Bon, écoutez, très bien. Alors, faut-il réquisitionner les lieux climatisés en temps de canicule? Tiens, Pierre Rondeau, est-ce que vous pourriez aller dormir au BHV?
Non, mais
vous qui avez souffert de la chaleur.
Soyons sérieux, 5 minutes. Yann Brossat, élu du Parti communiste, il applique simplement les thèses marxistes, léninistes, développées et théorisées depuis maintenant plus de 100 ans, qui n'ont aucune espèce de véracité ou de crédibilité aujourd'hui. C'est basé sur rien et ça ne fait pas avancer le débat. Et moi, c'est ce qui m'énerve. C'est qu'on a un vrai débat sur l'adaptation, sur le dérèglement climatique, sur le vivre en période de canicule, où, je le rappelle, le GIEC a listé dans son dernier rapport 857 villes occidentales et les a classées selon l'ordre de bien-être en temps de canicule. Paris est la dernière ville des 857 villes occidentales. Qui était aux manettes à la mairie de Paris pendant 8 ans ? Yann Brossa. Qu'a-t-il fait pour accélérer cette adaptation à la canicule et au dérèglement climatique ? Et maintenant qu'il n'est plus aux manettes, qu'il n'est que, entre guillemets, sénateur de Paris, il appelle à une proposition profondément soviétique, la réquisition des logements, la réquisition des bureaux.
Pas des logements, pardon, mais des bureaux.
La réquisition des bureaux.
Oui, mais BHV, c'est vide.
Mais alors, déjà, un.
Après, c'est un espace privé, il y a le droit à la propriété quand même.
Il y a quand même le droit à la propriété, et c'est vide, donc la clim n'est pas allumée, j'imagine. Je sais pas comment se.
Il y a certains étages qui sont encore allumés. Donc,
très certainement, mais encore... avant de passer par la réquisition.
Alors, s'il avait dit, par exemple, et moi, ça, j'aurais trouvé ça très bien. Tiens, la salle de fête, il y a plein de salles aujourd'hui, il y a plein de salons à la mairie de Paris, j'imagine qu'ils doivent être climatisés. S'il avait dit, tiens, il faut réquisitionner, entre guillemets, ces salons de la mairie de Paris pour y mettre les plus précaires. Vous auriez dit oui, vous payez des impôts locaux.
Mais de la même manière, comme les théâtres municipaux et les musées de la ville de Paris sont gratuits pour les moins de 26 ans. Il y a aussi des choses qu'il ne faut pas aussi.
Alors, ils sont assez peu climatisés.
Beaucoup de musées parisiens qui sont climatisés.
Oui,
il y a quelques théâtres, pas tous, vous avez raison, mais quelques théâtres qui sont climatisés et ils sont gratuits pour les moins de 26 ans. Il y a déjà des choses qui sont faites. Mais au-delà de ça, moi, surtout ce qui m'insurge, c'est que cette personne a été aux manettes de la mairie de Paris pendant 8 ans. Il aurait pu faire des choses,
Et
aujourd'hui, c'est un peu facile de dire, voilà, avec son.
On n'a pas vécu ces épisodes.
On ne les a pas vécu les dix dernières années. Le GIEC écrit des rapports depuis maintenant 30 ans.
Mais j'entends.
Donc on le savait, et lui en plus.
On le savait, mais on ne l'avait pas vécu. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience.
Maintenant qu'on l'a
même
vécu, je sors le manifeste du Parti communiste et j'en appelle à la réquisition et je porte atteinte au droit à la propriété.
Mais alors, qu'est-ce qu'on fait pour. Tiens, hier, par exemple, il y a une vieille dame, Louisette, qui est morte en banlieue parisienne. Elle est morte à 93 ans parce que en fait, elle est morte de chaud. Qu'on fait pour Louisette?
Depuis 2003, il y a la Joint Solidarité qui est censée rapporter 3 milliards d'euros par an.
Elle est morte dans son logement. Elle est morte dans son logement parce qu'il n'y avait pas de volet.
On est d'accord. Mais la Joint Solidarité, c'est pour les personnes âgées. C'est pas uniquement pour les EHPAD. 3 milliards par an depuis 2003. D'accord. Est-ce qu'on n'a pas pu lancer un plan d'accélération de la climatisation, y compris dans les espaces privés?
On aurait dû,
depuis 2003, à travers la Joint Solidarité qui rapporte 3 milliards d'euros par an, favoriser.
Mais on l'a pas fait.
Mais voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On sort le manifeste du Parti communiste et on appelle à la réquisition des logements et des bureaux, pardon.
Mais vous n'étiez pas de gauche, vous?
Oui,
pas
dis
communiste,
donc.
En tout cas.
Jean-Philippe,
bon, en tout cas, pour moi, le 8 juillet 2026 est à marquer d'une pierre blanche parce que je suis plutôt d'accord avec Yann Brossa. Et vraiment, je ne pensais pas le dire un jour.
Enfin, qu'est-ce qui se passe?
Il y a une inversion.
Moi, je n'ai plus de repères.
Il y a une inversion. Non, mais parce que, en effet, moi, je me mets à la place des maires. Je pense que c'est vraiment une responsabilité municipale. Des maires qui, d'un côté, équipent, par exemple, des écoles de climatisation, des écoles qui sont vides, là, depuis une semaine, des écoles qui sont vides, mais qui peuvent rafraîchir les gens. Donc, pourquoi ne pas faire, en effet, des heures de rafraîchissement aux personnes. Enfin, moi, en tant que maire, je ne supporterais pas d'avoir d'un côté de la rue des gens qui souffrent de la chaleur, qui souffrent de cette canicule jour et nuit, parce que c'est le principe de la canicule. Ils n'ont pas de répit, ces gens-là. Et d'un côté avoir ces gens-là, et de l'autre côté avoir des écoles, avoir des salles des fêtes qui
Ils emmènent dormir dans les jardins de Matignon, comme ils le réclament.
Pas dormir, mais quelques heures de rafraîchissement par jour. Tous les médecins le disent, quelques heures de rafraîchissement suffisent à atténuer le côté vraiment brutal.
Mais c'est pas
brutal.
D'offrir ça.
Non, tu m'as pas écouté, Estelle. Le maire qui est d'un côté à des bâtiments.
Enfin, le BHV, c'est pas public.
Pas le BHV, mais en effet, pourquoi ne pas faire profiter aux gens de tous les établissements publics qui sont rafraîchis? Pourquoi ne pas le faire? Moi, je suis pour évidemment l'atténuation du. Donc,
mais donne-moi un exemple d'espace
plus long
public.
Terme. Ben les écoles.
Si elles sont climatisées.
Ben elles sont pas climatisées.
Certaines écoles le sont. Elles sont rafraîchies ou elles sont climatisées. Et on a fait le débat ici il y a 15 jours en disant il faut climatiser les écoles. Les écoles là sont vides pendant 2 mois.
Ah oui, les ouvrir, ça c'est vrai.
Eh bien pendant 2 mois, on peut faire des pauses fraîcheurs, on va dire, à des gens qui vraiment sont dans des appartements. Et vraiment le maire, encore une fois, c'est la responsabilité du maire, qui a aussi des régies immobilières, qui qui, d'un côté, le maire, il sait que dans certains bâtiments que lui-même gère, il y a des gens qui sont en souffrance parce qu'il n'y a pas de volets, parce que etc. Et d'un autre côté, il a des bâtiments qui permettraient d'atténuer.
Je vais juste donner un exemple parce que Yann Brossat, il est juste sénateur, il n'est pas maire, donc il peut faire sa proposition, ça ne l'engage à rien, il ne fait rien concrètement.
C'est pour ça qu'il l'a fait.
Mais quand il fait sa proposition, il y a un maire LR du 17e arrondissement de Paris qui lui dit mais j'ai pas attendu Yann Brossat, il n'y a pas besoin de réquisitionner. Bah oui. Moi, par exemple, la salle des mariages dans ma mairie, dans le 17e arrondissement, elle est climatisée. Et ben, je l'ai ouverte les jours de forte chaleur. Il a dit j'ai trouvé des bénévoles.
Il a pas été faire du buzz.
Gérer l'accueil, etc. Oui. Il faut trouver des lieux, parfois des lieux municipaux, qui sont déjà climatisés. Il n'y a pas besoin de passer par la réquisition. C'est le mot qui fait peur à tout le monde.
Évidemment. Et surtout, la réquisition des lieux privés. Là, lieux publics qui permettraient ça. Donc, profitons-en. Mais encore une fois, ça, c'est l'adaptation en urgence. Mais réfléchissons aussi plus loin, encore une fois, sur l'atténuation du dérèglement climatique. Et prenons des mesures pour qu'on n'ait plus à faire ça dans les années qui viennent.
Et après, les gens ne sont pas débiles. Aujourd'hui, les centres commerciaux, ils sont bondés. C'est pas parce que les gens font les soldes. Ça marche plus, les soldes.
Cinémas aussi.
Mais alors, les cinémas, c'est payant. Mais en l'occurrence, les centres commerciaux, en plus, aujourd'hui, il y a toujours des banquettes un peu moelleuses, etc. Ils sont pris d'assaut parce que c'est climatisé. Alors évidemment, les plus précaires, comme cette pauvre Louisette qui est décédée là il y a quelques jours, c'est plus difficile pour elle de se rendre au centre commercial, etc. Et bien sûr, ces gens-là, il faut les aider. Mais a priori, la plupart des gens, ils connaissent les endroits climatisés. Et si vraiment il y a besoin, ils y vont. Mais est-ce que vous, Fred Hermel, vous êtes sensible comme Jean-Philippe Doux à cette proposition?
Je m'attendais pas à me faire piquer. J'étais sûr que j'allais être le seul aujourd'hui à pouvoir parler de Marx et Engels, de l'Union soviétique. Je m'attendais pas à me faire piquer cet argument par le gauchiste du programme.
On connaît nos classiques quand même.
Comme quoi
il les a lus trois fois. Hein.
Mais comme quoi. Enfin, moi, je les ai lus à 18 ans. Le manifeste parti communiste. Non, 17 ans, j'ai lu le manifeste.
Vous avez bien oublié quand même. Enfin bon, oui. Alors.
Non. Justement, il faut bien connaître comment ça marche. Non, mais c'est c'est totalement surréaliste en fait. C'est en gros, mais il y a des mots qui reviennent, des mots de nos cours d'histoire, dictature du prolétariat, planification, kolkhoze, tu vois, tous ces mots qui appartiennent à un passé heureusement oublié. Mais il y a encore des gens qui peuvent écouter les dires de Yann Brossat, qui était un garçon assez sympathique au
mais
dehors.
Mais il essaie de faire le bien, pour le coup.
Le bien, non. Il essaie d'imposer une idéologie qui a montré sa faillite totale, qui a fait quand même 100 millions de morts. Enfin, le communisme, c'est 100 millions de morts. Mais le communisme
c'est
aujourd'hui.
Veut, la manifestation.
Mais non, mais enfin, excuse-moi, la réquisition du privé, c'est une forme de dictature.
Pas des logements.
Tu comprends? Pas des logements. Ben oui, mais enfin, ça, je veux dire, toi, c'est surréaliste. Et en général, alors je ne sais pas exactement quelle est la position personnelle de Yann Brossat sur la climatisation. Enfin, il fait partie de la gauche qui est globalement hostile à la climatisation.
Ouais, de moins en moins.
Mais quand même, tu les écoutes, je vous rappelle qu'on a quand même un débat en France. Être pro-clim, c'est être de droite. Être anti-clim, c'est un peu de gauche.
Ça, c'était il y a un mois.
Non, mais il y a un mois. Pardonne-moi de voilà.
Donc quand il faisait frais, quoi.
Voilà. C'est des gens qui, il y a un mois, étaient contre la clim. D'un coup, ils sont pour la clim aujourd'hui. Mais réquisitionnez.
Oui, mais ça sauve des gens, Fred.
Mais que le public et Geoffroy Boulard, que je connais très bien d'ailleurs, le maire du 17e, bah oui, il y a plein de maires qui font plein de choses. Dans des petites communes aussi, ils font plein de trucs pour ça. Mais ce qui est choquant, c'est la réquisition du privé en disant nous, pouvoir public, nous ne sommes pas capables de faire ça, donc on va piquer ça au privé. On va obliger le privé à faire.
En fait, je pense qu'ils sont capables, mais ils préfèrent quand même prendre les salles des autres.
Vous voyez ce que c'est dire. Ça. Oui, la salle des. Oui. Non, mais oui, les nationalisations.
C'est de la com politique à 0 euro. C'est à 0 euro. Voilà, il est allé se filmer dans le BHV vide en disant regardez, ici, il y a la crime. Et en face, il y a des immeubles où les gens meurent.
C'est une forme. C'est une forme de nationalisation. Ça s'est fait en France en 1981, entre 81 et 83. Voilà. Bon, on est un peu revenu de
ce truc.
Voilà,
ça, oui.
Tu vois, c'est la dernière fois que les communistes ont vraiment gouverné.
Oui, mais Charles.
Avec François Mitterrand. Ce que je trouve surréaliste, c'est que ce message puisse encore passer aujourd'hui. Qu'on puisse encore
mais aujourd'hui il est malin, son
être
message.
Capable de passer ce message.
Oui.
Tu vois ce que je veux dire avec tout?
Mais il est malin. Aller se filmer dans les couloirs du BHV, c'est malin. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas.
Mais c'est de la
com. En vrai, c'est plutôt malin.
Oui, mais
aujourd'hui,
Estelle, pardonne-moi. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de gens malins en com. On a besoin de bons politiques qui préparent l'avenir.
Alors, pardon, mais il y a des gens en ce moment qui nous regardent, qui souffrent de la chaleur.
Ah oui.
Et de savoir qu'il y a des lieux de l'autre côté de la rue, qu'on pourrait, alors, réquisitionner, j'aime pas ce terme-là. Mais en effet, s'il y a des niveaux, des plateaux, climatisés, et ils parlent de fonds publics qui paieraient la facture d'électricité. Donc, à la limite, le privé, il a juste à ouvrir la porte en disant, OK.
Ah, le fonds public, pardon, Jean-Philippe, c'est nous, hein.
Pardon, mais si toi, tu as un appartement climatisé, que ta voisine souffre, tu vas pas l'inviter chez elle, chez toi? Fred, honnêtement.
Enfin, je vois pas le.
Mais moi,
je vois pas quelle voisine, la voisine du dessous, la voisine du dessous. Les deux. La voisine du dessous, elle a un petit climatiseur. La voisine du dessous, elle a un petit climatiseur. On a tous des petits climatiseurs.
Non, mais c'est de l'humanité.
Oui, mais enfin, l'humanité, excuse-moi, ce n'est pas. Moi, si j'ai besoin d'être généreux, c'est pas l'État qui va me le dire. Alors, ce que je veux dire, c'est pas une autre politique qui va me le dire.
Je paierai ta facture d'électricité et offre la
climatisation. Oui, alors ça, j'aimerais bien voir comment on va me payer ma facture.
Oui, bah, tu vois, c'est.
On termine avec des messages sur ce débat clivant.
Diana qui nous dit ne vous moquez pas, moi en ce moment, je meurs de chaud chez moi et je suis ravie quand je vais au boulot et qu'il y a la clim. Donc, oui, voilà. C'est pas absurde et on est plusieurs parmi mes collègues à traîner un peu en ce moment au travail
c'est pas mal.
Avec la clim.
Vous-même, vous l'avez fait, Charles.
Vous
avez dit qu'est-ce que tu fais encore là au boulot à cette heure-là et tu m'as dit je traîne.
Bah, quand il fait 45 dehors et qu'on finit à 15-16 heures, on n'est pas pressé de sortir dehors.
Exactement.
Il a même emmené un lit de camp, il paraît.
Oui. Concernant Yann Brossa, il y a Pascal qui nous écrit, mais comment veut-il sécuriser tous ces lieux? Parce que c'est bien beau d'ouvrir les portes en grand, des bureaux, des centres commerciaux la nuit, pourquoi pas des grands magasins. Mais forcément, il y aurait vite des dégradations. Qui va indemniser les commerçants et les sociétés privées qui ouvriraient leurs portes? Cette proposition est purement démago, c'est ce qu'en pense Pascal. Et d'ailleurs, quand on vous pose la question, faut-il réquisitionner les lieux climatisés? Vous répondez non, c'est pas à 95%, c'est non à 76%. Trois quarts, un quart,
exactement. Dans un instant, Anthony Morel, on n'arrête pas le progrès, qui va nous parler de ces entreprises de plus en plus nombreuses et qui, paradoxalement, reviennent à l'humain. C'est-à-dire que fini la robotisation et l'intelligence artificielle à l'outrance, on revient à l'humain. Anthony nous explique ça dans un instant. À tout de suite.
RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Il est midi 50 et midi 50. C'est le moment d'accueillir Anthony Morel. On n'arrête pas le progrès.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Anthony, chaque jour dans cette émission, vous virez des gens. Et je vous le reproche, d'ailleurs, non. Anthony, mais aujourd'hui, vous allez nous donner un petit peu d'espoir pour ceux justement qui pensent qu'ils vont être remplacés par l'intelligence artificielle. De plus en plus d'entreprises, Anthony, commence à faire machine arrière.
Oui, c'est ça. Et je voulais absolument faire cette chronique précisément parce que vous m'accusez injustement quasiment toutes les semaines de mettre des gens au chômage. Je rappelle pour tous ceux qui nous écoutent que je ne suis que le messager et que je n'approuve pas. Vous
n'êtes que le thermomètre.
Voilà.
Et pas la maladie.
Exactement. Oui, c'est ça. Parce qu'après, je me fais insulter. Je m'appelle pas Jean-Pierre ChatGPT, si vous voulez. C'est un peu le problème. Alors, donc du coup, effectivement, il y a de plus en plus d'entreprises qui sont en train de revenir en arrière, de se rendre compte que oui, l'humain, ça a du bon. Les derniers en date, c'est Ford, grand constructeur automobile, évidemment. Ils viennent de réembaucher 350 ingénieurs qui avaient été mis de côté. Pourquoi ? Sur l'autel de l'intelligence artificielle. En gros, ils avaient voulu automatiser notamment le contrôle qualité. Le contrôle qualité, vous savez, dans les usines, on doit déterminer si les voitures sont bien conformes à tous les standards de qualité.
C'est quand même mieux,
d'accord ? Et ça, on s'est dit, l'intelligence artificielle peut le faire. C'est-à-dire, ils ont installé des centaines de caméras intelligentes dans les usines qui sont capables de dire non, il y a une vis qui dépasse, il faut refaire ce genre de choses. Voilà. Sauf que, ils se sont rendus compte, que la qualité moyenne des voitures baissait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils manquent un truc à l'intelligence artificielle. Il lui manque l'expérience empirique du gars qui a passé 15 ans sur une ligne d'assemblage et qui peut, au bruit de la portière, là, dire non, la portière, elle est mal réglée. Ça, l'intelligence artificielle, elle n'est pas capable de le faire. Je fais bien la portière. Oui, vous savez que toutes ces chroniques sont bruitées à la bouche, vous le savez bien. Il y a une qualité incroyable. Donc, effectivement, ils se sont rendus compte que ça manquait, que ça créait des problèmes et qu'il fallait donc faire revenir les humains qui bossaient mieux que l'intelligence artificielle. Alors, ça n'est malheureusement probablement que temporaire.
Parce
que
c'est pas tout à fait la norme quand même.
Non, c'est pas tout à fait la norme. Et en fait, le truc, c'est qu'ils ont fait revenir les humains, mais les humains, l'un de leurs boulots maintenant, ça va être d'être les professeurs de l'intelligence artificielle. Ouais, c'est un peu ça. Et donc d'entraîner les futurs modèles d'IA qui à terme pourront peut-être les re-remplacer d'une certaine manière. On a au moins un répit, on va le dire comme ça.
C'est les CDD, quoi.
C'est un peu ça.
En tout cas, Ford, c'est pas le seul exemple hein, d'entreprises qui sont revenues sur l'intelligence artificielle.
Non, il y a énormément de cas de ce qu'on pourrait appeler du rétropédalage technologique. Il y a ce chiffre un peu fou, alors qui vient des États-Unis. Je pense qu'en France, c'est un peu différent. On n'a pas eu toutes les grandes vagues de licenciements liées à l'IA comme on en a eu aux États-Unis. Mais aux États-Unis, il y a 32% des dirigeants qui ont supprimé des postes à cause de l'intelligence artificielle, qui ont fini par réembaucher des gens aux mêmes emplois.
Ça fait un tiers.
C'est énorme. Ça veut dire que vraiment, il y a un manque de satisfaction sur la promesse de l'intelligence artificielle. C'est une révolution technologique, hein, je suis le premier à le dire, évidemment. Sauf qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont trop vite et qui font ça un peu n'importe comment. Et c'est dans tous les domaines. Ça va des fast-food, hein, je vous avais parlé de ces chaînes de fast-food qui avaient mis en place des systèmes de commandes automatiques. On parlait à une IA pour passer sa commande, par exemple.
C'est pas mal, ça.
Bah, sur le principe, sauf que ça fonctionne pas toujours très bien. Ah. Et donc, il y a des gens, ils se retrouvent, vous commandez une glace et vous vous retrouvez avec une glace avec un supplément bacon. Bon, c'est un peu bizarre. ça, normalement, l'humain fait pas. Ça peut tenter, pourquoi pas. Si c'est pas ce que vous avez demandé, ça peut être surprenant. Et ça va jusqu'à des entreprises qui veulent remplacer, par exemple, tout leur système, leur service RH, les ressources humaines, par de l'intelligence artificielle. On se dit, ah, ça peut être automatisé. Et qui se rendent compte, bah, que, en fait, quand vous avez un conflit entre un manager et un salarié, et qu'il faut un peu de doigté, un peu de diplomatie, bah, en fait, l'IA, elle suffit pas. Et qu'on a envie, à ce moment-là, de parler à des êtres humains.
En fait, l'erreur fondamentale, Anthony, c'est de vouloir aller trop vite et de faire du tout IA. La bonne formule, c'est un peu d'IA et beaucoup d'humain, quoi.
Ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment ça. C'est le mélange des deux qui fonctionne très très bien, parce que l'IA, elle a ses points forts. Évidemment, elle fait gagner énormément de temps sur les tâches qui sont automatisables. Et là, elle est imbattable, très très clairement. Et il s'agit pas de dire que l'IA dans les entreprises ça sert à rien. Évidemment, ça fait gagner énormément de temps. Mais sur toutes les tâches qui demandent, des décisions difficiles, des situations imprévues, de la négociation, de l'empathie, des choses qui sont fondamentalement humaines, là, l'intelligence artificielle ne suffit pas. Et on le voit bien, par exemple, dans le service après-vente et la relation client. Ça, c'est pareil. Il y a plein de boîtes qui se sont dit, on va déléguer ça à une IA, elle va faire ça beaucoup mieux, gérer les relations avec les clients. Et en fait, les clients, ils se rendent compte que on veut avoir quelqu'un. Et on est même très énervé quand on se rend compte qu'on nous a mis une machine en face, parce qu'on se dit, la marque, en fait, elle me respecte pas, elle me met à discuter face à un robot. Moi, je veux discuter avec un humain.
Il manque l'empathie,
exactement.
On va y venir.
Non, mais c'est toujours pareil. C'est une question de, j'allais dire d'années, mais c'est presque de mois, la vitesse à laquelle les modèles d'IA avancent.
Merci beaucoup Anthony Morel, on n'arrête pas le progrès tous les jours 12h50. Dans Estelle Midi, on parle de quoi demain ?
Demain, on va parler argent de poche.
Ah super !
L'argent de poche qui passe au mode dématérialisé, en mode numérique, avec plein d'initiatives et plein d'idées pour aussi bien gérer son argent. Il y a toute la question de l'éducation financière des adolescents notamment. Je sais que c'est un sujet qui vous est cher, et on va en parler demain.
C'est une de mes marottes. Ouais. Merci beaucoup Anthony Morel. Dans un instant, le zapping, le meilleur de l'actu sur RMC. On parlera d'une nouvelle cérémonie commémorative du 11 novembre à l'école. On parlera de cartes postales et puis bien sûr cette victoire un peu miraculeuse hier de l'Argentine face à l'Égypte. À tout de suite.
RMC, retrouvez Estelle Midi en podcast sur l'appli RMC et sur rmc.fr. RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Estelle Denis. On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est ensemble jusqu'à 14h. Il y a aujourd'hui autour de la table Fred Hermel, notre journaliste et écrivain. On a aussi un journaliste et libraire, Jean-Philippe Doux, double casquette. Et puis notre économiste Pierre Rondeau. Et puis bien sûr, enfin, Charles Magnin qui est là. Également, dans un instant, il y aura le zapping, le meilleur de l'actu sur RMC. Et puis ensuite, on se posera cette question. Rembourser les traitements contre la calvitie. Est-ce que ce serait une bonne ou une mauvaise idée ? En tout cas, on y réfléchit très fortement en Corée du Sud. Vous pouvez d'ores et déjà nous appeler si vous perdez vos cheveux. Il y a quand même un homme français sur quatre qui perd ses cheveux, qui est victime de calvitie. Donc ça devrait motiver nos auditeurs.
Et oui, ça vous fait sourire, mais pour certains, c'est sûrement une souffrance. N'hésitez pas à témoigner. Le 06 12 424 424 pour tous vos témoignages, peut-être toutes vos photos aussi. N'hésitez pas.
Oui, envoyez-nous vos photos de crâne.
Voilà.
Déjà un appel de Fred Hermel sur la...
Partagez votre implantation sur le WhatsApp de l'émission.
Jean-Philippe nous racontera ses implants.
Oui.
Il a fait une petite greffe.
Ouais. Ça pas il y a longtemps.
Mais malheureusement, ça s'est tombé autour de la greffe.
Et ça vous fait rire.
Mais enfin, on se connaît depuis 25 ans. J'ai suivi les étapes de greffe.
Voilà. Et moi, je subis ça depuis longtemps.
Un pionnier de la greffe.
Évidemment. À l'époque.
C'était le patient zéro.
Il a envisagé tous les pays. Puis il est allé au moins cher. Enfin, c'est Philippe.
Non, j'ai fait à Paris, mais c'est pas.
On en reparlera en tout cas. Et comme Jean-Philippe, vous pouvez témoigner. Vous l'entendez, vous ne serez pas du tout jugé par Estelle. Au 06 12 424 424.
J'ai d'autres problèmes. Ça n'a rien à voir.
Et puis ensuite.
Et puis Pierre-Antoine.
Il s'appelle Pierre-Antoine, le jeune homme à côté.
De toute façon, en tant que gros billet aujourd'hui.
Hier, c'était violent.
Non, mais ça va. Je peux m'en aller après. Je pars en vacances, Estelle, il n'y a aucun problème. Non, mais quand on a une amie comme Estelle, on n'a pas besoin d'ennemis.
Voilà, c'est clair.
Oui, ça va, Estelle. En plus, je vois que vous avez sorti vos bracelets là en ce moment. Eh ben, vous avez raison, c'est la tendance en ce moment, les bracelets. Ils sonnent au portique, ceux-là?
Non, ils sont en plastique.
Ah, ils sont en plastique. Bah voilà, c'est mieux pour prendre l'avion. Et vous serez tranquille.
Je ne prends plus l'avion.
C'est vrai?
Non, je ne voyage pas.
Magnifique. On va scruter ça, hein, parce que on note.
Je vous jure, je ne prends pas l'avion cet été.
Allez, on écoute un message. C'est parti.
Écoutez, bonjour, c'est Nicolas Sarkozy. Alors, c'était pour féliciter Madame Le Pen. Hein, chapeau bas, parce que moi, j'ai dû attendre d'être président pour avoir un bracelet électronique et elle même pas. Alors, si elle veut des petits conseils pour pas être emmerdée par les bip bip tout ça, qu'elle m'appelle. Hein, allez, au revoir.
On avait eu aussi un message de Patrick Balkany pour la féliciter, mais si on doit passer les messages de tous les politiques condamnés par la justice, on rend l'antenne en août, Estelle.
Vous avez raison de faire le tri. Merci beaucoup, Pierre-Antoine. Oui, et soyez à l'heure.
Et ne m'oubliez pas.
Merci. Non, ne vous inquiétez pas. Allez, tout de suite, c'est le zapping, le meilleur de l'actu sur RMC.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
On commence avec un extrait des Grandes Gueules ce matin sur RMC. Une cérémonie commémorative du 11 novembre à l'école. Bonne ou mauvaise idée? Une initiative en hommage à tous les morts pour la France sera mise en place dès la rentrée prochaine dans chaque école élémentaire, collège et lycée. Et pour Barbara Lefebvre, l'enseignante des GG, c'est tout simplement ridicule.
Ce serait bien que les cérémonies pour en mémoire de Samuel Paty et de Dominique Bernard soient respectées. Quand déjà celles-là seront respectées, faites correctement, eh ben peut-être qu'on en fera d'autres pour les morts pour la France. Parce que dans ce cas-là, les morts pour la France, il va falloir que ce soit global, c'est pas que le 11 novembre, c'est une date qui est choisie pour honorer les morts pour la France. Il y a deux enseignants qui sont morts pour la France, c'est Samuel Paty et Dominique Bernard, et à chaque fois, il y a des problèmes lors des journées commémoratives. Donc que Monsieur Macron s'occupe de ça.
Alors, est-ce ridicule ou pas cette cérémonie commémorative du 11 novembre, Fred Hermel?
Non, c'est pas du tout ridicule. Je comprends l'argument de Barbara au sujet de Samuel Paty et Dominique Bernard. Mais non, pas du tout. D'ailleurs, moi, quand j'étais petit, on allait, au 11 novembre, les enfants des écoles, on allait chanter la Marseillaise au monument aux morts. On lisait les noms des morts du village lors des différentes guerres. Voilà, il y a pas mal de gens de ma famille, d'ailleurs. On a beaucoup donné dans la famille à la France. Et voilà, moi, je trouve ça très bien. Et c'était un moment solennel qui était très important. Donc, je trouve ça très bien qu'on fasse ça dans les écoles. Parce que la question, c'est que moi, je fais partie d'une génération qui a connu des gens qui ont connu la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que moi, mon grand-père maternel a connu enfant la Première Guerre mondiale. Donc moi, j'ai eu toutes ces histoires. Mais pour les gens des nouvelles générations, il y a plus ce contact. Donc c'est, il faut rappeler, c'est une manière de continuer à entretenir la mémoire et de parler de l'horreur des guerres et de ce que ça représente, etc. Donc moi, je trouve ça très très bien. Alors, c'est une manière d'enseigner l'histoire.
Pourquoi que le 11 novembre?
Parce que c'est le jour officiel de commémoration en France.
D'accord.
C'est sous Sarkozy, hein, si je dis pas de bêtises, que ça a été décidé de réunir l'hommage aux morts pour la France le 11 novembre.
Ok.
Voilà, c'est une date très importante, la plus grande boucherie. Oui. Enfin, on appelait ça.
Donc c'est pas que la Première Guerre mondiale.
Non, c'est l'ensemble des guerres, mais c'est le 11 novembre, mais était déjà choisi par l'État pour être le moment où on se souvient de tous les morts pour la France. Donc moi je trouve ça très bien. C'est une manière se faire sentir appartenant à un pays, même pour les enfants qui sont d'origine étrangère, puisqu'il y avait des combattants étrangers en Première Guerre mondiale et Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est aussi une manière d'intégrer tout le monde dans cela. Et puis c'est aussi une manière de faire de l'histoire, quoi, tout simplement.
Voilà, et pour les profs aussi, peut-être faire un cours peut-être particulier ce jour-là. Bonne ou mauvaise idée, Jean-Philippe?
Alors, pour moi, très bonne idée. Je suis totalement d'accord avec Fred. Moi, je suis né à quelques kilomètres de Verdun, dans la Meuse, où on a tous souffert. Il y a des villages qui ont été rasés de la carte lors de la Première Guerre. Mais en effet, c'est une date symbolique qui ramène à la Première Guerre. Mais l'idée, c'est justement de rendre hommage à tous les soldats tués. Et il y en a encore cette semaine. Enfin,
oui, bien sûr.
Y a des gens en ce moment qui sont au combat. On a des militaires français qui tombent chaque mois. Donc il faut absolument. Ça fait patrie, je trouve, de penser à ces hommes-là qui défendent nos couleurs, qui défendent notre liberté et la liberté d'autres pays. Donc évidemment que c'est nécessaire. Et je suis totalement d'accord avec Fred de dire, quelles que soient les origines, quelle que soit la nationalité, parce que on a beaucoup parlé des Sénégalais, etc. En fait, c'est ce ne sont pas que les Français qui ont défendu la France et ne sont pas que les Français qui défendent la paix.
Les GG ce matin sur RMC. Écrire des cartes postales, est-ce pour vous ringard? Les cartes postales sont plébiscitées quand même par 64% des Français, ce qui ne veut pas dire qu'ils en écrivent. Et parmi ces 64% de Français, il y a Charles Consigny, l'avocat des GG. Écoutez.
La dernière fois que tu en as envoyé une?
Mais là, cet hiver.
Depuis?
Depuis une station de montagne.
Oh.
Mais oui, parce que je trouve que...
Bah, c'est plus marquant qu'un message WhatsApp.
C'est, voilà, exactement.
C'est sur un
c'est une attention beaucoup plus...
mignon.
Voilà, c'est autre chose, effectivement, qu'un message WhatsApp. Et donc, je trouve que c'est en plus amusant, inattendu, les gens ne s'y attendent pas, etc. Donc, je trouve que c'est sympa.
Alors, est-ce qu'écrire des cartes postales, c'est ringard, Pierre Rondeau?
Oh, ringard. Bon, ça va dépendre de la carte postale. Si on a la belle carte postale avec Tu l'as vu mon ou des choses comme ça, c'est...
Mais qui ont...
Bah, je vois toujours, moi, dans les maisons de la presse bretonne, des cartes postales assez rigolotes, oui. Avec beaucoup de guillemets.
Non, oui, je vois, c'est du humour tellement beau.
C'est pour ça
qu'on me demande... Oui, et à chaque fois, je me dis, bah, s'ils les mettent, c'est qu'il y a des gens qui les achètent.
Bah, il y a Pierre Rondeau,
il y a un public pour ça.
Non,
bravo, Pierre.
Je me permets de juger, parce que moi, je n'aurais pas de carte postale de cet acabit.
Vous n'en envoyez pas du tout, d'ailleurs.
Je n'envoie pas du tout de carte postale, donc.
Mais à votre mère, Pierre?
Je lui envoie un message WhatsApp. Oh, j'envoie,
ça n'a rien à voir.
Je l'appelle.
Et la dernière fois que vous avez envoyé une carte postale, c'était quand?
Ah, c'est il y a longtemps.
Bah, c'était une carte de vœux, une carte d'anniversaire, une carte de Noël?
Non, même une carte postale de vacances.
Étiez en colonie?
Non, mais je devais être étudiant, je crois. Je vais raconter ma vie, mais j'étais très amoureux d'une fille et je lui ai envoyé des cartes postales.
Elle vient de la recevoir d'ailleurs.
Ouais.
Et elle a dit non. Elle veut pas.
C'est qui déjà Pierre? Mais oui, je faisais ça. Le côté épistolaire, là.
Ouais. Avec... Ça n'a pas suffi, manifestement.
Manifestement, non.
C'est resté épistolaire.
Je reste dans un échec assez cuisant. Mais,
C'est ça, si vous avez envoyé une carte postale. Vous savez,
elle est.
Oh là là, avec effectivement une femme à moitié nue sur la plage.
Ce type de carte postale.
Ça n'a pas marché.
Quand vous me demandez est-ce que c'est ridicule, c'est ridicule.
Oui.
Si c'est une belle carte postale, pourquoi pas, à la rigueur. Moi, je ne le fais pas. Je l'ai fait autrefois quand j'étais étudiant. Et ça n'a pas porté ses fruits, puisque je n'ai pas fini avec cette personne.
Alors, Jean-Philippe Doux, vous avez une librairie, et dans cette librairie, je crois que vous vendez des cartes postales, ça se vend bien ou pas?
Ben oui, alors c'est vraiment d'actualité, parce que hier, on a repassé commande avec mes libraires, parce qu'ils me disent, on n'en a plus, on a des
cartes... C'est des cartes postales de chats?
Alors non, pas que, des cartes postales aussi de la région, et alors, on a des cartes postales un peu particulières avec de l'herbe à chat à l'intérieur, ou de la lavande.
L'herbe à chat. À 24 euros la carte à peine.
Dans la boîte aux lettres, ça va puer l'herbe à chat.
Mais non, ça pue pas l'herbe à chat.
Bah, pourtant, ça attire les chats.
Je ne sais même plus combien je les achète d'ailleurs.
Pas le prix à laquelle vous l'achetez, le prix à laquelle vous l'avez.
C'est autour de 4 euros, il me semble. Je ne suis pas sûr du tout.
4 euros? Ça fait 24 francs, Jean-Philippe.
Oui,
26 francs.
Avec le petit timbre, Marianne. Non, mais c'est. Moi, je trouve ça d'autant plus précieux, la carte postale, qu'on est justement dans une société où tout se fait par WhatsApp, etc. C'est ce temps long, vous savez, où la carte postale arrive. Vous êtes déjà rentré, la carte postale arrive. Et puis, c'est une démarche qui a d'autant plus de valeur que personne ne. Enfin, beaucoup moins de gens le font. Avant, il fallait. Et on y avait toujours le moment pendant les vacances. Il fallait se fader les cartes postales. Oh, si je le fais pas, elle va m'en vouloir, etc. Là, maintenant, en fait, c'est une démarche qui est tellement plus belle qu'avant parce que on prend le temps de le faire. On choisit la carte. Alors, comme Pierre, c'est le faire. Et moi, je trouve que c'est magnifique. C'est magnifique. J'ai une amie, Manu, qui nous écoute peut-être. Elle le fait régulièrement. Et je trouve ça, mais vraiment chouette de le faire. Et je vous dis, moi, on en vend beaucoup à Aix-en-Provence.
Fred, vous êtes très carte postale.
Oui. Non, malheureusement, je le fais plus, mais je le regrette. Mais ce qui est bien, c'est de retrouver les cartes postales qu'on a reçues, par exemple, et de voir, mon neveu qui a 23 ans, de voir quand il avait écrit Damien, quand il avait 4-5 ans, quoi, voilà, avec le petit truc, voilà, il y a des souvenirs. Et j'ai retrouvé.
Les petits facteurs
des trucs comme ça. Mais c'est vrai que je regrette un peu le courrier. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à apprendre l'espagnol à 15 ans, j'avais une correspondante en Argentine. Et donc, ça mettait un mois pour arriver.
Ah ben,
et c'était avec les, vous savez, c'était les enveloppes plus légères bleu, blanc, rouge par avion.
Ah, oui, c'était beau,
et en fait, c'était merveilleux d'attendre la carte. Et on s'est connus, on avait 40 ans quand je suis allé en Argentine. Et on est toujours amis aujourd'hui. Voilà.
Ah bah, c'est bon.
C'était, c'est, on s'est écrit pendant 15 ans avant de se connaître. Non, non, on était devenus trop amis pour ça, mon cher.
Le Morning RMC ce matin. Comment lutter contre l'isolement des seniors en France? 750 000 personnes âgées sont en situation de mort sociale. Et pour lutter contre ça, eh bien, Tom Gallois, cofondateur de Génération, met en relation les seniors avec des jeunes qui peuvent les aider à domicile. Écoutez.
Les jeunes n'interagissaient pas forcément beaucoup avec les personnes âgées, à part avec leurs grands-parents. Mmh. Et donc, on voulait vraiment créer une plateforme qui puisse donc rassembler ces générations et en plus fournir une aide quotidienne et surtout de la compagnie et de la convivialité. Aide ménagère, aide administrative, aide informatique, ménage, des choses comme ça.
Alors, est-ce que vous trouvez ça bien, Pierre, de mettre en relation finalement des jeunes et des seniors?
Ce qui est une vraie souffrance et une réalité, une triste réalité, c'est la misère sociale de certaines personnes âgées qui, selon des chiffres, ne parlerait qu'à seulement 3 personnes par an.
C'est tout?
Oui, il y a une vraie misère sociale de la part de certaines personnes âgées qui ne voient plus personne, qui restent enfermées chez eux et qui ne voient personne, qui ne font rien et qui sont totalement exclus de toute forme de vie sociale. Et alors là, voilà, c'est une démarche de temps. C'est un jeune qui vient donner de son temps. Alors, est-ce que c'est bénévole ou rémunéré?
Non, il vient pas donner, c'est rémunéré. Il vient un coup de main pour remplir la déclaration d'impôt.
Oui, c'est une relation mercantile.
Oui, mais bon.
C'est pas grave si tu aides.
On est dans un monde où on est obligé de marchander la solidarité.
C'est ça, c'est ce qui m'embête en fait dans la démarche.
Attendez. Je veux bien qu'on fasse les. Non mais Charles, excusez-moi. À 20 ans, on vous aurait dit est-ce que tu peux aller à l'EHPAD, donner 3 heures de ton temps pour aider bénévolement? Mais en vrai, tu n'y serais pas allé. Donc en fait.
C'est ça qui est dommage.
Mais peut-être.
Ce qui est dommage, c'est de se dire que je vais faire un arbitrage entre ne pas y aller parce que je ne suis pas rémunéré ou y aller parce que j'ai donné mon temps pour une forme d'échange social.
Des vocations qui peuvent naître.
Voilà,
des vocations qui peuvent naître. Finalement, c'est bien de parler avec les vieux.
Mais les jeunes aujourd'hui, évidemment, quand tu avais 18 ans, ce n'est pas le premier truc qui te venait à l'esprit.
Évidemment, mais il y a une vraie crainte.
Il ne faut pas faire peser ça sur les jeunes de 18 ans. C'est aussi aux gens de 30, 40, 50 ans de s'occuper de leurs aînés.
Oui, mais
ces aînés qui.
Mais ça peut être un petit boulot aussi. Enfin,
je comprends l'idée de petit boulot et de la relation mercantile et de la rémunération, mais ça dessert quelque peu l'acte en lui-même, qui est un acte social, un acte altruiste, d'aller vers les autres, et en l'occurrence des autres, qui vivent une vraie misère sociale, qui ne voient personne tout au long de l'année.
Mais c'est un peu du gagnant-gagnant, quelque
part. Mais le gagnant-gagnant pourrait être fait aussi sans cette relation forcément mercantile. Le fait qu'il y ait de l'argent dans l'intermédiaire me dérange. Après, on me dira que c'est un monde capitaliste et que, de fait, tous les actes sont rémunérés.
Les auxiliaires de vie sont payés.
Mais évidemment, mais sauf que là, c'est, je sais qu'il y a de la misère sociale, je sais que ces personnes ne voient personne tout au long de l'année, et j'ai envie de donner mon temps, comme le feraient des bénévoles, pour aller vers eux et m'occuper d'eux 3 heures par semaine.
C'est le métier, entre guillemets, de dame de compagnie.
C'est le métier de dame de compagnie, je suis d'accord. Là, ça vient d'une démarche qui va au-delà d'un métier.
On va terminer avec du football et ce match absolument incroyable hier, qualification in extremis de l'Argentine face à l'Égypte, l'Argentine qui a été menée 2-0 jusqu'à la 79e minute et l'Argentine qui a renversé l'Égypte. On réécoute cette fin de match tout de suite sur RMC.
Centre de Messi vers la tête de Lautaro Martinez et le but de Lautaro Martinez, c'est Cristiano Romero finalement.
Lionel Messi devant la surface, le centre de Lionel Messi qui est repoussé par une tête égyptienne, la deuxième tentative, une nouvelle fois déviée, ça revient quasiment sur Lautaro Martinez, Messi la frappe, le but de Lionel Messi, le centre quand même de Lautaro Martinez, la tête,
le but.
Qualification de l'Argentine. Incroyable. Sûrement, 3-2 pour l'Argentine.
Ça avait démarré mollement, cette Coupe du Monde. Mais alors, on a quand même des émotions extraordinaires, Fred Hermel.
Elle est super, cette Coupe du Monde.
Ah oui.
Elle est magnifique.
Oui.
Franchement, en plus, on va la gagner. Donc, désolé, je vois personne.
Attention à la Norvège.
Oui. Mais...
Moi, c'est mon.
Ouais,
voilà.
La Norvège en finale. La Norvège en finale.
C'est mon petit ticket d'avant la Coupe du Monde.
Je veux bien France Norvège en finale. Voilà. Mais je trouve. Alors, hier, je dois dire. Je parlais de ma correspondance en Argentine, c'est un pays qui me fascine. J'adore l'Argentine, mais je n'aime pas son football, je n'aime pas ses footballeurs.
Ouais.
Voilà, alors que c'est vraiment un pays que j'aime vraiment beaucoup.
Mais ils se font sortir par la Suisse, c'est pas grave.
Mais voilà, et donc hier en fait, j'étais content de voir l'Argentine peut-être perdre. Puis finalement, quand ils sont qualifiés, je dis non, parce que j'ai quand même envie de les taper en finale.
Voilà.
Non, mais, tu vois, non, mais moi, j'ai envie d'une victoire, d'une finale France-Argentine, en sachant qu'il y aura.
Faut passer le Maroc et l'Espagne, hein.
Oui, je suis d'accord. Non, mais dans ma
c'est
projection.
Pas, c'est pas petit.
Je
petit,
sais
quoi.
Qu'on aura deux ou trois pénaltys offerts à Messi contre nous. Voilà. Oh, là, non, ça fait partie du jeu. Mais je veux une finale France-Argentine. Enfin,
l'Espagne, c'est pas passé, hein.
Non, ça va être dur. Mais
nous, on n'a pas un tableau facile.
On n'a pas un tableau facile. On est d'accord.
Comme aux Argentins.
L'Argentine,
oui,
c'est où?
Mais pardonne-moi, je pense que la France va aller en finale et j'aimerais que ce soit l'Argentine pour qu'on les gagne.
C'est vrai qu'hier, il y avait deux
équipes. Pour qu'on les batte.
Hier, il y avait deux
équipes. J'ai envie de voir la Norvège.
Ouais, bah, non, parce qu'on les aime bien, les Norvégiens.
Bah oui, mais. Donc, mais en fait, je trouve que cette histoire, elle est magnifique.
Quoi qu'il en soit, c'est la Coupe du Monde des retournements de situation. Je trouve ça fou. Et tous ceux qui, comme moi, font partie d'un petit groupe de pronostics, vous savez, on en a beaucoup parlé ici.
De bah, là, Mireille de la Comta, elle se régale.
Le groupe de pronostics, c'est 4 millions de téléchargements d'un
MVP. Oui, voilà. Non, mais ce qui est génial, c'est que dans notre groupe, en fait, au fur et à mesure du match, on se rend compte que celui qui se dit, ah, j'avais bien dit qu'ils allaient se faire taper, en fait, pas du tout. Moi, j'adore les émotions que ça procure. Il n'y a pas eu un match qui s'était déroulé du début à la fin, à part peut-être les matchs de l'équipe de France. Ben ouais. Mais des retournements de situation, c'est
t'es
incroyable.
Dernier de la Ligue sur mon petit pronostic.
Voilà. C'est Mireille de la Comta qui avait pronostiqué des victoires improbables.
Ou
des matchs nuls.
C'est la beauté de cette compétition, je trouve. Vraiment.
Voilà. Pour chaque Rondeau, vous régalez
ou
pas?
Je me régale, mais là, hier, il y avait deux écoles pour ce match. Il y avait ceux qui voulaient vraiment que l'Argentine sorte, se fasse taper contre l'Égypte et perde en huitième, ou alors que l'Argentine aille en finale pour tomber contre la France et que la France les tabasse.
Mais
que nous, Français, là, on tabasse l'Argentine, on gagne 4-0.
D'abord, on ne peut pas dire tabasser. On ne tabasse pas l'Argentine.
C'est une expression footballistique, non, bien évidemment.
Mais ni la France ni l'Argentine ne sont encore en finale. C'est-à-dire que là, on passe deux tours de suite, quoi. Donc,
je pense les Allemands, ils regardaient aussi leur tableau en se disant,
ça va finir en Maroc-Norvège, la finale de la Coupe du Monde, comme ça, on pourra. Et pourquoi pas d'ailleurs, bien sûr.
Maroc-Suisse ou Espagne, vous savez, l'Espagne, c'est quand même un tout petit peu costaud.
Oui, mais au même titre que la Suisse, au même titre que le Maroc.
Exactement. En tout cas, c'est une super Coupe du Monde et c'est quand même très ouvert.
Et l'organisation est super parce que faut voir tout ce qu'on se disait avant la Coupe du Monde.
Les stades sont dingues.
Les stades sont pleins, ils sont super.
On tire des cartons rouges.
Oui,
il y a deux, trois
quoi aussi
quand même.
C'est une honte, mais ça, c'est toute l'histoire. Dans ton histoire du foot, ça s'est toujours fait.
Mais l'organisation.
Mais c'est le foot.
Mais excuse-moi, on a eu des histoires comme ça.
Mussolini en 33.
Excuse-moi, des horreurs arbitrales, il y en a eu dans toutes les Coupes du Monde. Oui. On parle simplement de l'organisation. C'est sans faute.
Évidemment, tu interdis le séjour, les supporters africains, tu mets des places à 5 000 dollars. Évidemment. Bah si, les visas africains, ils
étaient. Mais attends, Pierre, il n'y a pas eu un incident.
Mais oui, tu mets l'ice aussi à la sécurité.
L'ambiance, elle est folle. Super. Voilà, l'ambiance est dingue. Les supporters sont formidables. Les images,
évidemment, ils ont payé leur place 5 000 dollars.
Mais non, c'est pas vrai.
Ah d'accord. Donc en fait, les supporters qui créent. Mais tu te rends compte de ce que tu dis?
Je dis simplement.
Ça veut dire qu'en fait, donc c'est les pauvres, ils foutent le bordel, et les riches, ils se tiennent bien. C'est ça que tu dis?
Je dis pas ça, je dis simplement que le côté très lisse de la Coupe du Monde, bien orchestré, bien organisé.
Mais elle est pas lisse, cette Coupe du Monde.
Assez dans un entre-soi, où il y a beaucoup de supporters, notamment africains, qui n'ont pas obtenu leur visa. Donc mettre en avant la superbe organisation avec surtout.
Parce que t'as pas vu le supporter africain dans cette Coupe du Monde?
Je sais qu'il y a une quinzaine de pays, notamment africains, qui ont vu leur visa refusé. En tout cas, les supporters ont vu leur visa refusé.
Enfin, toutes les équipes avaient leurs supporters, dans cette Coupe du Monde.
Aller le dire aux Haïtiens, aller le dire aux Sénégalais, aller le dire aux Ivoiriens, la diaspora sur place pouvait aller au stade, mais tous ceux qui voulaient faire le déplacement ont vu leur visa refusé. Tout comme le meilleur arbitre africain, somalien, qui a été refusé de séjour.
Enfin, en tout cas, alors là,
mais mettons en avant l'organisation.
Ben non, mais d'accord, mais en tout cas, pour moi, alors je te dis, moi je trouve que c'est une très belle Coupe du Monde.
C'est une très belle Coupe du Monde.
Effectivement, et il faut rappeler ce que tu as rappelé. Mais aujourd'hui, le spectacle, il est dingo. Voilà. Et sur le terrain et en dehors du terrain.
C'est bien mieux que. Excuse-moi, je prends beaucoup plus de plaisir cette fois-ci que ce qui s'est passé il y a 4 ans dans un micro-pays, au Qatar. Excuse-moi,
c'est ce qui s'est passé.
Il y avait aussi des stades magnifiques.
Ah oui, l'ambiance.
Ça s'est joué dans une ville, c'est pas l'ambiance.
Oui, alors.
Là, c'est une vraie Coupe du Monde.
Et l'empreinte carbone, on peut en parler aussi parce que là.
Bon, on fera ça plus tard, là.
Non, mais les déplacements de cette Coupe du Monde, c'est incroyable.
D'accord. Bon, dans un instant, taisez-vous. Juste, stop. Dans un instant, on parle calvitie. C'est hyper important.
On va s'arracher les cheveux.
Jean-Philippe, si c'était vous, je me tairais et j'attendrais cette question. Faut-il rembourser les traitements contre la calvitie? On y réfléchit en Corée du Sud et faut-il y réfléchir aussi en France? À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 13h30, vous êtes sur RMC, RMC Story, dans Estelle Midi, Fred Hermel, Jean-Philippe Doux, Pierre Rondeau et Charles Magnien. Et on va s'intéresser tout de suite au fléau du jour. Et ce fléau, eh bien, si vous êtes un homme, vous risquez de bien le connaître. C'est celui de la calvitie. Aujourd'hui, un homme français sur quatre est atteint par ce phénomène qui peut engendrer beaucoup de souffrance avec également un sentiment fort de dévalorisation. En Corée du Sud, la calvitie est tellement devenue un problème de société que le président du pays souhaiterait que les traitements soient remboursés par l'assurance maladie.
Oui, il voudrait que la calvitie soit considérée comme une maladie à part entière et donc que les patients puissent bénéficier d'une prise en charge. Comme le raconte France Info, en Corée du Sud, les hommes chauves souffrent d'une véritable stigmatisation de la société. La société coréenne est marquée par une vision très traditionnelle de la virilité. L'homme idéal est souvent représenté avec une épaisse chevelure. Et ceux qui la perdent, ceux qui perdent leurs cheveux se sentent dévalorisés, que ce soit en matière de séduction ou même d'emploi, nous dit-on. Le ministère coréen de la Santé serait d'ailleurs en train de plancher sur le niveau de remboursement et les patients qui seraient prioritaires. Et en tout cas, le débat fait rage dans le pays avec une opposition qui estime que cet argent devrait plutôt être consacré en priorité à des maladies bien plus graves parce que le remboursement des traitements contre la calvitie serait estimé à 400 millions d'euros en Corée. Pour vous donner une idée, en France, selon l'IFOP, un homme sur quatre, mais aussi des femmes, 2% des femmes se déclarent atteints de calvitie et tous ces chiffres progressent nettement avec l'âge.
Alors, rembourser les traitements contre la calvitie, pour ou contre? Évidemment, je dois me tourner vers vous, Fred Hermel. Je suis désolée, je ne fais pas de discrimination ou quoi que ce soit. Mais oui, Fred, bon, bah, vous êtes chauve. Vous êtes à quel âge vous avez été atteint de calvitie?
La trentaine.
D'accord.
En fait, alors sur les côtés, j'ai zéro problème, c'est au-dessus.
C'est normal, les cheveux sont éternels sur les côtés,
voilà,
et derrière.
Donc, au début, ça m'a fait un peu chier. Mon coiffeur m'a donné quelques produits, puis à un moment j'ai lu que c'était mauvais pour le cœur, donc au bout de 6 mois j'ai arrêté. Et puis
vous avez tout rasé.
Et puis j'ai commencé à raser.
Mais si les traitements, si on vous avait dit tiens, si vous prenez ce traitement, vos cheveux, en tout cas vous les perdrez moins, et en plus c'est remboursé.
Je sais pas parce que ça, j'ai des amis qui sont traumatisés par ça. J'ai mon ami François, mais ça le rendait malade.
Il ne parle que de ça.
Moi ça, alors mais vraiment ça m'a.
Bon, ça dépend des gens, quoi.
Ouais,
ça n'a
pas été une souffrance. Et je me trouvais beau aussi sans cheveux. Donc, c'est une question de perception.
Pour qui c'est une souffrance? Est-ce qu'il faudrait rembourser?
Vaut mieux aller le rembourser à un psy dans ce cas-là. Tu vois, parce que si t'as un problème d'apparence, etc. Après, c'est vrai que c'est le fait de plus avoir la possibilité de me passer la main dans les cheveux, c'est quelque chose qui est bizarre. Je vais vraiment chez le coiffeur toutes les semaines, c'est vrai, parce que je veux que ce soit bien, que ce soit une belle boule à zéro. Et alors, culturellement, contrairement à la Corée du Sud, être chauve, c'est plutôt un signe de masculinité en France.
Oh là.
Non, mais regarde les Vin Diesel,
etc. Oui,
regarde Monsieur Propre. Il est chaud.
Moi, j'ai écouté Charles.
J'ai écouté Charles.
C'est dégradant professionnellement et physiquement en Corée. En France, au contraire, un mec chauve, t'as quand même beaucoup de gens qui se rasent la tête.
Exactement.
C'est plutôt viril. Donc, culturellement, c'est pas non plus stigmatisant. Donc,
exactement.
Moi, je n'ai pas de...
Voilà. Zizou s'était rasé la tête. Personne disait, c'est un manque de virilité.
Non, pas du tout. Enfin, donc, je
l'inverse,
pense que...
c'est pas vrai, hein.
Je comprends que des gens puissent être touchés par ça parce que j'ai des amis, mais moi, c'est pas mon cas. Donc,
pas de remboursement.
Pas de remboursement.
Jean-Philippe, vous êtes passé par la case greffe, donc c'est que ça devait être quand même une petite souffrance. Sinon,
Mais moi, j'ai commencé à les perdre à 17 ans. Donc,
c'est plus frais qu'on est. Hein.
Voilà, et c'est pas du tout normal quand on a 18, 20 ans d'avoir une calvitie. Donc, et d'ailleurs, à l'époque, j'avais des copains qui se moquaient de moi et qui sont devenus totalement chauves en quelques années. Par exemple, quand je présentais Morning Live, ça causait un petit problème professionnel pour moi parce que je présentais les journaux de Morning Live et on se moquait de moi. Alors, Michael Youn se moquait un peu de moi, etc. Donc, il y avait une petite
stigmatisation.
Après, vous avez bossé
avec moi et là, jamais de moquerie.
Ça n'a pas cessé. Et à un moment, j'ai décidé en effet de faire quelques implants. Alors, pas beaucoup. C'était il y a 12 ans. Et alors, le problème, c'est que vous mettez donc des cheveux de derrière. Ce sont vos propres cheveux, hein, pour ceux qui ne sauraient pas. On les prend derrière, on les met au-dessus. Et le problème, c'est que il y a ceux qui n'étaient pas, qui devaient tomber,
bah, ceux tombent.
C'est-à-dire qu'en fait, celui qu'on a greffé, il est là, et puis celui qui était à côté, ben, il est tombé. Mais on parlait de virilité.
Mais remboursement.
Remboursement. En... Bah, non. Alors, moi, je suis contre. Par exemple, on rembourse aujourd'hui en France l'anneau gastrique. On rembourse la réduction mammaire.
L'obésité, c'est un vrai coût social.
Exactement. Parce que il y a un problème de santé. Là, pour moi, il n'y a pas de problème de santé. On peut vivre.
Et si t'as un problème psychique derrière, parce que justement, t'as un problème de santé mentale derrière.
Pas en France. Vraiment, on parlait de Zizou. Je trouve que des gens comme Zizou ont renversé, ou Barthez, ce sont des gens avec qui ont baiser. Renversé.
On a des modèles sauves.
Ouais, ouais. Voilà. Et il ne faut pas oublier, alors je te le dis, hein, Pierre, c'est un vrai problème de virilité. C'est que t'as un excès de testostérone. C'est ça qui provoque la chute des cheveux pour la majorité des personnes. Et que donc, c'est un excès de virilité. Et d'ailleurs, souvent, quand on perd ses cheveux, on a la pilosité qui augmente parce que on n'est plus viril. Voilà, Pierre, tu le sauras.
Oui, mais regardez, par exemple, on rembourse les oreilles décollées. Les oreilles décollées, ça n'occasionne pas de problèmes de santé. Tu n'entends pas moins bien
parce que tu as des
oreilles. Oui, mais c'est la même chose, mais c'est remboursé. Donc pourquoi est-ce qu'on rembourse les oreilles décollées?
Je suis pas sûr. C'est
sur avis du chirurgien, mais le chirurgien estime souvent c'est un enfant, enfin c'est un jeune en tout cas, et c'est le chirurgien qui fait une demande à l'assurance maladie pour un remboursement.
Donc en fait, pourquoi est-ce qu'on rembourserait les oreilles décollées où c'est quand même de l'esthétique? Et pourquoi pas la calvitie où c'est de l'esthétique aussi?
Alors là, évidemment, vous avez un contre-argument qui est parfait parce que je partais pas là-dessus. Moi, j'avais plutôt tendance à dire qu'il ne faut pas les rembourser. Et oui, si on rembourse les oreilles décollées et qui se traduisent par un vrai problème psychique et mental, et en plus ça touche des enfants directement. Alors, c'est vrai que à la différence de la calvitie, les oreilles décollées, c'est dès l'enfance. Et l'enfant, on l'a peut-être tous vécu, l'enfant est méchant. À l'adolescence, on commence à complexer, les boutons, l'oreille décollée, tout ça, et l'enfant est méchant. Et donc ça peut se traduire par des problématiques psychologiques et sociales et mentales. Là, je le comprends, pour les oreilles décollées. Maintenant, pour la calvitie, effectivement, 17 ans, 18 ans, on est encore dans l'adolescence, et on peut être victime de moquerie. Si c'est à 30, 35 ans, va voir un psy, plutôt, j'ai envie de dire. Ouais. C'est plus le côté problématique mentale, c'est l'enfant. L'enfant souffre. L'enfant, les oreilles décollées, même l'acné, les boutons contre l'acné sont remboursés. Il y a une vraie problématique de confiance en soi. Je le comprends parfaitement. La calvitie à 30 ans, que ça soit remboursé parce que ça se traduit par un mal-être mental. J'irais plutôt tendance à aller vers le remboursement psychiatrique et psychologique.
Mais typiquement, on rembourse aujourd'hui l'assurance maladie les perruques pour les malades qu'on subit une chimiothérapie, par exemple. C'est uniquement aussi pour de l'esthétique.
Ah ouais, non, toutes les perruques ne sont pas remboursées. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme les lunettes.
Ouais, voilà.
C'est-à-dire que t'as des lunettes de sécu, des lunettes un peu plus high level.
Mais parce que c'est une souffrance.
Si tu veux ta perruque Annie Davray, tu vas la.
J'imagine que le remboursement à la calvitie, c'est tu prends le low cost en Turquie, c'est remboursé, et tu vas dans un gamme au-dessus.
Tu vas pas en plus rembourser les soins dans un pays étranger.
La petite clinique avec juste les petites parcelles de cheveux à ajouter, ou le gros truc, le bon service, où là, c'est un surplus. Tu payes de ta poche.
En tout cas, si vous êtes complexé par votre calvitie ou pas, d'ailleurs, écoutez, vous nous appelez bien sûr au 3216 et puis vous réagissez sur le WhatsApp. Il y a déjà des réactions, Charles.
Ah bah je reçois aussi plein de photos crâne.
Des photos de crâne.
Oui,
ah bah très bien.
On va saluer Nino, Hubert, Sylvain, Cyril aussi. Je vous envoie mon crâne à la Zidane, comme l'écrit Cyril. Et c'est vrai que maintenant, je suis de moins en moins complexé avec le temps, mais c'était remboursé. J'irai me faire greffer des cheveux. Voilà ce que nous dit Cyril. Pour l'instant, je ne le fais pas. Mais oui, si on me le remboursait, pourquoi pas. La calvitie ne me dérange pas, nous écrit Olivier, parce que moi, pour me résoudre le problème, je me suis fait tatouer le crâne. C'est une autre option qu'a choisi Olivier, le tatouage du crâne. Elisabeth nous dit, je ne suis pas concernée, mais alors si on se met à rembourser la calvitie de ces messieurs, qu'on me rembourse les seins qui tombent à partir de 50 ans. Voilà ce que nous écrit.
Je suis d'accord avec elle.
Et
nos régimes minceurs après 50 ans, bien sûr que oui. Il n'y a pas de raison que
il y a un mal-être.
Il y a un truc qui s'appelle la ménopause. Et derrière, t'as un petit. Quand tu prends des kilos, etc., alors que tu manges pas, c'est aussi invalidant. Mais il n'y a aucune femme qui nous demande nous rembourse.
Le bon argument, c'est la souffrance que tu vis quand t'es enfant et la souffrance que tu vis quand t'es adulte. Quand t'es enfant et qu'on se moque de toi parce que t'as les oreilles décollées, t'as des boutons, c'est beaucoup plus difficile pour la construction de ta confiance en toi que quand t'as 40 ans, 50 ans et que t'as les seins qui tombent ou que tu perds tes cheveux.
Oui, et est-ce que c'est pas le regard de la société qu'il faut changer sur les personnes qui perdent leurs
cheveux.
On
va pas rembourser le regard de la société, pardon.
Ah non, mais justement, oui, mais ça coûterait moins cher si un mec de 30 ans qui perd ses cheveux n'était pas complexé. On se poserait pas la question de lui rembourser.
Mais ça coûterait moins cher si on avait confiance en nous
et qu'on on va pas changer
le regard des gens.
Le complexe, il vient du regard des autres.
Non. Le complexe, il vient du fait d'avoir une image plus vieille que son âge. En fait, c'est juste.
On va pas être comme les autres.
Voilà, c'est juste.
Sincèrement, tu crois qu'aujourd'hui, être chauve, c'est discriminer? J'ai l'impression qu'il y a tellement de gens qui
se rasent. En fait, quand t'es jeune et que t'as effectivement, comme disait Philippe, 18-20 ans, que tu perds tes cheveux et que t'as des golfs, c'est embêtant.
Il n'y aurait pas autant de monde dans les avions pour la Turquie. Il y a un business derrière.
Moi, je n'ai jamais eu aucune remarque. Si des insultes sur Twitter, ça oui, mais une remarque dans la vie, ça te gêne pas. C'est la première fois que je parle de ça parce qu'on fait le sujet.
Avant, par exemple, il n'y a pas un animateur télé ou quoi qui aurait fait des implants. Bah, maintenant, tu le vois, qu'il y en a qui le font et ça s'est démocratisé. Mmh. Donc, en fait, effectivement, le regard est plus bienveillant là-dessus. Mais il y a 20 ans, quelqu'un aurait dit, je vais même faire des implants. Mais tu regardes en disant, quoi, des implants? Et bah, maintenant, voilà, c'est rentré dans les mœurs. Sauf que le problème, c'est que ça coûte cher. Quelque part, une discrimination, c'est-à-dire que les gens riches, ils vont faire ça dans un bel institut dans une grande ville, et les gens plus précaires, ils sont obligés d'aller en Turquie avec tous les risques que ça comporte.
Il y a eu un suicide d'une personne.
Avec une greffe de barbe.
Une greffe de barbe qui avait totalement raté en Turquie. Franchement, le bonheur, il est dans l'acceptation, souvent. Donc, faire un travail sur soi pour s'accepter tel qu'on est.
Oui, mais parfois, ça fait des séances de psy. Ça coûte très cher.
Oui, mais ça, on peut rembourser, quoi.
Le psychiatre est déjà remboursé. Christophe est avec nous. Il nous appelle de Loire-Atlantique. Il est gérant de société. Il venait nous parler de calvitie. Bonjour, Christophe.
Bonjour, l'équipe des RMC. Bonjour, Estelle.
Bonjour. Alors, Christophe, est-ce que vous faites partie de ces un quart d'hommes français à être atteints de calvitie?
Alors, j'ai eu, oui, en effet, un petit peu de calvitie au niveau du dessus de la tête. Mmh. Et c'était un problème pour moi de m'accepter. Et donc, je suis parti faire une petite opération en Turquie. Et j'ai pas regretté mon choix parce que c'est très bien passé. Et donc, c'est sûr que j'ai pas fait marcher l'Institut français, mais bon, c'était... C'était du simple au triple en termes de coût.
J'allais vous demander, tiens, justement, ouais. Christophe, j'imagine que vous avez fait des devis en France pour une greffe.
Je m'étais renseigné, mais ça coûte 10-12 000 euros, quoi, à peu près, pour la France.
Ah, quand même? Je pensais que c'était 5 000, moi. 10-12 000 euros?
Ouais, c'est ça. Et puis en Turquie, 4 000, ouais.
Oui, mais vous avez rajouté le voyage et tout ça?
Non, tout est compris, ouais. Non, vous avez raison, il y avait juste le voyage, mais en tout, 4 000.
D'accord.
Revenu à 4 000 en tout, avec le voyage, le séjour, voilà.
Et est-ce que ça a changé votre vie, Christophe?
Ah oui, complètement. Ouais, complètement. Ouais, parce que le trou du milieu, ça nous fait prendre 10 ans.
Ah, ça, c'est
donc,
vrai.
Ça, c'est pas terrible. Le regard, après, on est des hommes, mais c'est pas parce qu'on est des hommes qu'on doit avoir du bide et puis un trou sur la tête. Mmh. Et donc, je trouvais que c'était pas esthétique. Et pour moi, ça me posait problème, ça, c'est clair. Et donc, le fait d'avoir fait ça, ça m'a. Déjà, je me suis vu raser. Ouais. Ça m'a permis de me voir rasé pour le futur. Et donc aujourd'hui, je me suis accepté comme ça parce que j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Et si demain ça retombait, je pense que je me raserais directement.
Alors Christophe, votre regard sur vous a changé. Est-ce que le regard des femmes sur vous a changé?
Écoutez, ma femme, je pense qu'elle m'apprécie mieux aujourd'hui avec des cheveux que sans.
D'accord.
Je pense que quand même. Ouais.
Donc c'était aussi une décision de couple en fait?
Non. C'est ma décision.
D'accord.
Elle me trouvait. Oui, je vois ce que vous dire. Elle me trouvait très bien comme ça, mais moi, je ne m'acceptais pas comme ça. Ouais.
Mmh. Écoutez, merci en tout cas pour cette franchise, Christophe, qui est allé faire une greffe en Turquie, comme de très, très, très nombreux Français aujourd'hui. Et on termine avec Alexandre d'Aix-en-Provence. Il est commercial. Bonjour, Alexandre.
Bonjour.
Alexandre, 39 ans. C'est jeune, 39 ans. Est-ce que vous perdez vos cheveux, Alexandre?
Oui, je les ai perdus assez jeunes, à 20 ans, et ça a toujours été un complexe, et j'ai sauté le pas il y a 4-5 ans pour faire une greffe de cheveux en Turquie, et
c'est une
des meilleures décisions qui me soit passée par la tête.
D'accord, oui. D'accord.
Ça a littéralement changé ma vie. À l'époque, j'étais quand même assez peu sûr de moi, j'avais vraiment pas confiance en moi. Aujourd'hui, avec des cheveux, malgré tout, c'est quelque chose qui a changé mon quotidien, oui.
Et vous êtes dit, Christophe, Alexandre, j'ai pas confiance en moi parce que j'ai un début de calvitie, etc. quoi.
Oui, déjà très jeune, je commence à perdre mes cheveux à 20 ans, donc ouais. J'étais un peu plus jeune que les autres et j'étais déjà avec des coupes de cheveux pour essayer de camoufler ça. Enfin voilà, ça m'a fait perdre confiance en moi et pendant très longtemps.
Et vous dites aujourd'hui faut rembourser?
Je pense que oui. Il y a quand même pas n'importe qui, pas n'importe comment, mais oui quand même. Je pense que ça peut être une bonne chose. Moi, ça m'aurait changé ma vie. J'aurais peut-être pas. Bon, aujourd'hui, je suis très heureux, mais j'aurais peut-être gagné un peu de temps sur le fait de m'accepter comme je suis.
Bah écoutez,
avec
super.
En plus.
Combien ça vous a coûté?
Ça m'a coûté dans les 2500 euros, tout compris avec le vol et tout ça, vol, hôtel.
Bah pour un changement de vie, c'est pas mal. Et c'est vrai que multiplier les séances de psy, ça aurait peut-être coûté plus cher. En tout cas, merci. Merci à vous aussi, Alexandre, pour votre franchise. On voit qu'on en parle beaucoup plus librement aujourd'hui qu'il y a quelques années.
Oui, à l'inverse, il y a aussi Grégory qui nous dit « Moi, je suis chauve. Il faut assumer d'être chauve. Le regard des autres va changer un peu. Mais voilà, il n'y a pas de raison de rembourser. » Et puis, tiens, je vais finir avec tous les messages de femmes qui nous écrivent. Ludivine, Marion, Caro, qui nous disent « Mais moi, je n'aime que les chauves. » nous écrit Caro. Si je n'étais pas déjà marié à un chauve, je ferais la cour à Fred Hermel. Voilà ce que nous écrit Caro. Donc oui,
bonjour, beaucoup
de femmes apprécient les chauves.
C'est passé à ça,
dire.
Fred.
Alors rembourser les traitements contre la calvitie, comme ça se fait en Corée, vous êtes contre à 81%. Donc on est loin du remboursement.
C'est pas couper les cheveux en quatre sur cette réponse. dans un instant, Pierre-Antoine Damcourt, le répondeur, les meilleurs messages laissés au 32-16. À tout de suite.
RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
13h50, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, et c'est le moment du répondeur d'Estelle Midi, Pierre-Antoine Damcourt.
C'est maintenant. Non, mais je suis. Jingle, allez-y.
Même le jingle est mobile. Pierre-Antoine Damcourt.
Bah, ça va, Pierre-Antoine?
Oui, je suis ému, Estelle. C'est gentil de me laisser faire ma chronique aujourd'hui. Non, parce qu'hier, elle m'a complètement oublié. Elle allait rendre l'antenne juste avant ma chronique, et heureusement, il existe une oreillette, et on lui a soufflé mon existence.
Mais
on lui a hurlé. Il y a Damcourt qui attend.
C'est qui?
Ouais.
C'est la Coupe du Monde.
La
ça.
Fatigue n'excuse pas tout, Estelle.
Bon, c'est vrai. Allez. Mais je me suis excusée beaucoup.
On écoute un message.
Oui, Estelle, c'est la maman de Pierre-Antoine. Alors comme ça, hier, vous avez voulu rendre l'antenne et terminer l'émission sans lui laisser faire sa chronique. Mais qu'est-ce qui se passe? Il s'est mal comporté? Il a été méchant? Surtout, faut pas hésiter, hein. Bottez-lui le cul à ce petit con, ça lui fera pas de mal. Bisous, je vous adore, Estelle.
Ah ouais, vous adore.
Vous connaissez bien le ton de Corinne.
On reconnaît, hein. Et pour une fois, j'avais rien fait, j'ai été sage toute l'année, Estelle, quand même. C'est
bon,
pas.
Ouais, allez.
Allez, message suivant.
Oui, bonjour Estelle, Maxime de Coutainville. Voilà, il n'y a pas de match de Coupe du Monde aujourd'hui et pour la première fois depuis un mois, j'ai retrouvé une vie normale, quoi. Et il y a le bébé de la voisine qui pleure. Chérie, c'est notre bébé. Mais depuis quand on a un bébé? Ah bah ouais, mais c'était France Paraguay aussi. Ah, puis du coup, elle est mignonne la petite. Hein, c'est un garçon. Okay. Allez, bisous.
Eh ouais, c'est la première. C'est un peu une grosse pause fraîcheur de 24 heures qu'on a là.
C'est trop. Moi, ça va me manquer là. J'ai comme un manque là.
Au niveau du Suisse-Colombie hier, ça va pas trop vous manquer, non?
C'était pas mal.
C'était long.
J'ai regardé jusqu'à après la séance de.
Vivement France-Maroc, Estelle. Demain, ça va. Ouais, ça va être bon.
Et Norvège-Angleterre.
Ah ouais, là,
moi, je suis à fond sur ce match.
On a hâte.
Ah oui, évidemment. Allez, message suivant.
Oui, bonjour Estelle, c'est Guy de Caen. Voilà, je vous écoute chaque jour. Vous êtes un peu mon îlot de fraîcheur. Vous êtes
sympa.
Ma climatisation, mon ventilateur, mon éventail, ma petite.
Qu'est-ce que tu fais, Brigitte Stéphane, là? T'appelles encore la Denis? Oh putain, espèce de petite merde de connard de.
Oh là, oh là,
bon,
Non.
Je vous laisse, il y a mon chauffage qui est arrivé.
Vous rafraîchissez les gens, Estelle, c'est ça qui est beau. Hein, vous avez vu le principe des bips là qui n'a pas bipé les mots?
Oui.
Ouais, non, mais c'est comme ça, c'est une.
C'est la fin de la saison.
C'est la fin de la saison.
Voilà, bon, allez, message suivant.
Oui, bonjour, c'est Gianni Infantino. Pour le match face au Maroc, on vous a tout bien préparé. On a mis 5 arbitres argentins. On a rappelé les Paraguayens qui auront le droit de vous tacler pendant l'échauffement. Et pour être bien sûr que vous ne passiez pas en demi, on a mis Gilbert Montagné à la barre. Voilà, bon match.
Il peut faire ce qu'il veut, Gianni. Franchement, on est.
Bah,
Oui, mais on est intouchable parce qu'on a les petites pierres de la ministre des Sports.
Marina Ferrari. Vous aviez oublié le nom.
Oui. C'est vrai, bon.
Bah oui.
Je suis pas le seul, je pense.
Pour l'instant, ça marche.
Pour l'instant, ça marche. Message suivant.
Oui, bonjour, brigadier Bovin à Saint-Etienne. Bon, ça y est, les députés ont voté la loi qui nous permet d'être intouchables à chaque fois qu'on fera usage de notre arme. Ouais, ouais.
Et ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va tirer, on sera automatiquement en état de légitime défense. Ouais. Et moi je dis ça s'arrose. Champagne. Ouais.
Bobin, qu'est-ce que vous foutez?
Eh ben je débouche le champagne avec mon arme, chef. Le bouchon il m'a mal regardé. C'est de la légitime défense. Ouais.
Doucement, avec modération le champagne et les tirs aussi tant qu'on y est.
Bien sûr.
Un dernier message.
Bah oui, tout à
une amie Fred.
Coucou mes petits chats, c'est Françoise de Nice. Oh. Ça fait un bail que je vous ai pas appelé. Mais là, je suis allé voir De Gaulle au cinéma. Oh, ça m'a rappelé des souvenirs. Quel coquin, mon Charlie. Je peux vous dire qu'avec lui, j'étais pas résistante bien longtemps. Quand il m'envoyait des messages codés depuis Londres pendant la guerre. Les sanglots longs, des violons de l'automne. Tout le monde pensait que c'était pour le débarquement. Eh ben non, ça voulait dire je pense à toi, ma Françoise. J'ai mon petit soldat au garde-à-vous. Oh, c'était un romantique, mon Charlot. Bisous, bisous.
Bisous, Françoise. Ça faisait longtemps qu'elle nous avait pas appelé. Oui, vous avez manqué. Hein
bon, je veux dire, du 06, c'est très bon.
Ouais, c'est ça. Allez, on efface tes messages et demain, c'est la dernière de la saison, Estelle.
Là,
je peux ramener des goûters, un 4-quart,
des jeux de société.
On fait des jeux de société.
Voilà. Allez. Pierre-Antoine Damcourt, le répondeur, tous les jours à la dernière, bien sûr, demain, 13h50, dans Estelle Midi et en podcast rmc.fr, l'appli RMC et toutes les plateformes de téléchargement. Tout de suite à l'intégral tour avec Pierre-Yves Leroux, cinquième étape du Tour de France entre Lannemezan et Pau. Bonjour.
Bonjour Estelle, bonjour à tous. Effectivement, une étape qui va être consacrée très certainement, réservée même aux sprinteurs aujourd'hui, aux grosses cuisses. On les a pas beaucoup vues à l'œuvre, même si c'est pas personne quand même qui s'est imposé hier, on l'attendait pas forcément. Mais aujourd'hui, entre Lannemezan et Pau, là c'est vraiment pour les sprinteurs. Pour les grosses cuisses et pourquoi pas pour les chauves, parce que ça peut être aérodynamique aussi.
Hein. Enfin, ils portent des casques quand même, a priori.
C'est vrai, j'oubliais.
Est-ce que ça peut être une petite étape de repos, on va dire, pour les coureurs qui sont quand même déjà très entamés par la chaleur?
Alors, c'est déjà une étape
repos,
de repos.
Repos, c'est un bien
Christophe,
gros mot. Hein, mais...
Pour Christophe Cessieux, déjà, tu l'auras remarqué.
Exactement.
Hein, il a besoin de repos très rapidement. Repos, oui, c'est sûr que pour les leaders, c'est quand même une étape un peu plus confortable souvent, où on peut être dans le peloton et se réserver pour l'étape de demain qui sera très dure déjà avec Gavarnie. Mais il faut gérer quand même la chaleur, il faut quand même pédaler, il faut faire les kilomètres et ça va vite.
Est-ce qu'il y a un Français qui peut tirer son épingle du jeu aujourd'hui, Pierre-Yves?
Ah, pas facile, pas forcément évident parce qu'on n'a plus les sprinteurs d'antan, mais pourquoi pas un Turgis ou un Russo, voilà les deux noms qu'on pourrait sortir aujourd'hui.
Merci beaucoup Pierre-Yves Leroux, l'intégral tour c'est dans un instant sur RMC, on suit cette cinquième étape du Tour de France avec vous évidemment. Et nous on se retrouve demain, Estelle Midi, midi 14h. Salut à tous et bonne fin de journée sur RMC.